Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Mon Paris FM dans l'émission Au bout du foot présentée par Eladji Makalou. Avec nous aujourd'hui, on aura Cheikh Kenza. Comment vas-tu Cheikh Kenza, ça va ?
Je vais bien et toi Eladji, comment tu vas ?
Ça va, super, merci. On aura avec nous aussi notre chroniqueur habitué, le directeur, rédacteur en chef.
Ah ouais.
Ah, Abou Konté, ça, comment vas-tu ?
Ça va, hein, moi ça m'a gonflé mon poste, je prends directeur du centre du centre Dîner, je prends.
Non, on n'a pas dit directeur, rédacteur en chef. Bon, avec nous ce soir, on a quelques chroniqueurs qui ont un peu de retard, hein. Je pense qu'il y a eu un peu
Le bouchon, c'est Paris, c'est Valérie Pécresse, tout ça.
Exactement. Du coup, on va démarrer quand même, hein, parce que on va quand même parler de foot, parce qu'on a quand même nos spécialistes autour de la table. Et aujourd'hui, ça va enchaîner sans pause musicale ou quoi, jusqu'à 22h. Et c'est parti, Abou, est-ce que tu peux nous dérouler le sommaire, s'il te plaît, d'aujourd'hui ?
Et bien évidemment, avec plaisir que je vais te dérouler le sommaire, un sommaire riche et varié. Ça, c'était la petite technique pour le retrouver. La question à BDF, Paul Pogba, suspendu 4 ans, l'international français, fait-il partie des plus grands gâchis de l'histoire du football français ? Ensuite, 30 secondes chrono habituel, hein, nos auditrices et auditeurs ont l'habitude. Quels sont les faits majeurs football des chroniqueurs en 30 secondes ? Semaine européenne, Paris, Marseille, Lille, qu'attendez-vous de nos clubs français cette semaine ? Le PSG n'a-t-il vraiment rien à craindre face à la Real Sociedad ? L'OM part-il favori ? Lille a-t-il l'obligation de gagner son match ? Le dossier ABDF, Maxence Cacré, la Coupe de France est un objectif. L'Olympique lyonnais a-t-il tout du futur vainqueur de cette édition ? Quel choix pour quel résultat ? La gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique peut-elle mettre en danger la fin de saison du Paris Saint-Germain ? Et on finira sur Franck Heise sur la shortlist de Liverpool. Annoncé sur la shortlist des Reds pour remplacer Jürgen Klopp à l'issue de la saison, est-ce utopique d'imaginer le coach français à ce niveau-là ?
Merci Abou pour cette lecture. On va enchaîner tout de suite. Hein. Abou, pour la première question à BDF, qu'est-ce que tu penses de la suspension de Paul Pogba ? 4 ans, ça a été officialisé là ces derniers temps. Et la peine est assez lourde. Hein. Ouais, on pouvait s'y attendre aussi. On pouvait s'y attendre en faisant appel en premier lieu de ces 2 ans qu'il avait. Il avait écopé de 2 ans et il fallait qu'il montre sa bonne foi et qu'il montre que ce n'était pas volontaire. Et ce qu'il n'a pas pu prouver, en tout cas, du moins à sa dernière audience, c'est pour ça qu'il a écopé de 4 ans de suspension. Du coup, Abou, dis-nous, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Un gâchis pour le football français ? Un talent gâché, entre guillemets, même si on sait qu'il a accompli pas mal de choses. On va revenir un peu sur tout son parcours, sur tout ça. Quelles sont tes impressions, toi, Abou ?
Bah, moi, je trouve que c'est un... Ouais, c'est un... Après, la question, est-ce que c'est le plus grand gâchis de l'histoire du football français ? Le plus grand ? Je ne sais pas. Il y a quand même eu des joueurs comme Atem Ben Arfa, par exemple, qui sont des gâchis énormes. Et Paul Pogba, la différence d'eux, lui a pu quand même gagner des choses avec l'équipe de France, notamment la Coupe du Monde 2018.
Qui n'est pas
donc, et en plus en faisant une très très grosse Coupe du Monde, genre c'était pas un petit joueur qui était là, mais vraiment
un joueur
important. Ouais. Donc est-ce que c'est le plus grand gâchis ? Non, mais est-ce que c'est un gâchis ? Ouais, forcément, parce que le talent qu'il a, Paul Pogba, pour moi, c'est... Enfin, pour moi, le joueur, quand il commence sa carrière, il a le niveau pour se mesurer à des Iniesta, Xavi, à la fin de sa carrière. En tout cas, pour moi, on devait citer son nom parmi ces gens-là. Et aujourd'hui, on ne peut même pas le citer parmi le top 3 des milieux français. Donc, le plus grand gâchis, non, mais un gâchis, ouais. Et c'est triste de le voir à ce niveau-là, même s'il a dit qu'il fera encore une fois un nouvel appel auprès du tribunal arbitral, du sport. Et on espère pour lui que ce sera favorable. Mais c'est un énorme gâchis.
Mais est-ce que tu penses que même en faisant appel, prochainement, est-ce que tu penses que il pourrait écoper de moins de 4 ans ?
Bah, je pense qu'on peut le remettre à 2, mais lui enlever totalement sa suspension, c'est dur. Parce que comme tu le disais, il faut qu'il prouve sa bonne foi. Et c'est compliqué de prouver à des gens que tu as pris un truc dopant sans savoir que ça avait des effets dopants. Enfin, comment tu vas le prouver ? En fait, la seule chose pour la prouver, c'est ta parole. Et c'est dur de croire en la parole d'un seul homme. Et si tu jamais t'autorises ça pour Paul Pogba, tu laisses une brèche pour plein d'autres joueurs qui derrière le feront peut-être de manière intentionnelle et qui viendront te dire ouais mais ma parole c'est ma bonne foi, Donc je pense que enlever totalement la suspension, non, la remettre à 2 ans, il y a moyen. Et moi, j'aurais été ses avocats, je leur ai dit d'ailleurs de ne pas faire appel de la première décision et de rester sur 2 ans, même si tu es persuadé et que tu sais au fond de toi que tu n'as rien fait.
Bah oui, forcément. En tout cas, on imagine qu'ils doivent se montrer vraiment intransigeants à ce niveau-là. On pense à plusieurs joueurs qui se sont dopés, même qui se sont dopés directement, sans se cacher, même entre guillemets. On pense notamment à Maradona, qui est une légende du football, mais aussi qui a été interpellé en plein match, même en plein match, pour sortir parce que ses résultats avaient été positifs. Et c'est sûr qu'à ce niveau-là, ils sont obligés d'être intransigeants. Toi, chez Kenza, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Oui, je pense que Pogba, normalement, et c'est sans doute survenu après sa blessure et tout ça. Et en Italie, il y a eu pas mal de joueurs qui ont été victimes de ce scandale-là. C'est-à-dire, on les prescrivait vraiment des trucs qu'ils prenaient, mais qu'ils ne savaient pas vraiment que c'était des usages dopants qui pouvaient vraiment nuire les carrières. C'est déjà arrivé plusieurs fois en Italie. C'est un pays où il y a pas mal de scandales au niveau du football. Donc, je pense qu'il en est pour rien. Mais comme le mal est déjà fait, l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Donc, on va vraiment se baser sur ça. Je pense que c'est aussi un gâchis parce que la carrière de Pogba, déjà, ça débute en équipe de jeunes, en équipe de France. Déjà, il gagne une Coupe du Monde junior avec une belle génération dorée et tout ça. Des beaux joueurs comme Areola, Lucas Digne et tout ça. Oui, ouais, bien sûr, avec une belle génération dont il était le capitaine.
Génération 93.
Ouais, en plus, en équipe de France encore, senior, il prouve que c'était un joueur cadre et tout ça. Et même Deschamps un peu dessus. Les amateurs de foot au niveau de la France sont un peu dessus. Mais j'espère qu'il pourra rebondir. 4 ans, c'est énorme comme Abou venait de le dire, c'était mieux de rester sur une décision de 2 ans, c'était possible, qu'il pourrait se relancer. Mais là, je crois que c'est un gâchis. Un gâchis, même pas le plus grand, parce qu'il y a eu des joueurs comme Ben Affa, comme Jérémy Ménez, qui ont été des gâchis et tout ça. Il y a eu plein de joueurs comme Florence Namapangol qui n'ont pas réussi à faire la carrière qu'on attendait. Mais par contre, Pogba, il nous a donné la deuxième Coupe du Monde. Donc, c'est un joueur emblématique, on peut le dire, quoi qu'il arrive. Je pense qu'une erreur ne peut pas entacher totalement son parcours.
Oui, une erreur. Après, c'est une assez grosse erreur quand même. Mais on rappelle quand même, hein, le joueur a 30 ans. Voilà, on rappelle 30 ans. Donc, du coup, si on passe, il aura 31 ans même le 15 mars. Donc, dans à peu près une dizaine de jours. Du coup, on pense franchement à 34 ans pour se relancer. À 34 ans, il faut savoir que c'est l'âge où plusieurs footballeurs prennent leur retraite ou préparent déjà leur retraite de façon très simple, quoi. En gros, ils vont plus pour l'argent, pour les contrats. Donc, même si demain on imagine qu'ils reviennent après sa suspension, est-ce que pour toi ça serait pour jouer en Europe? Ça serait pour jouer en Europe ou l'Arabie Saoudite ou en Chine ou même en MLS? On sait pas trop.
Non, moi je pense qu'il pourra pas revenir dans un championnat majeur déjà. En plus, il y avait pas mal de signes et tout ça. Ces dernières années, il a vécu pas mal de problèmes. Donc, en plus, c'était la descente aux enfers. Là, ça avait commencé. Il était sur une mauvaise spirale. Donc là, ça continue encore avec ce drame vraiment qui vient remettre pas mal de choses en question. Mais je ne vois pas Pogba vraiment revenir dans une grande équipe. Disons peut-être une grande équipe des 5 grands championnats, je ne vois pas. Je vois vraiment peut-être soit en Arabie Saoudite, soit en MLS, ça serait possible qu'il puisse y relancer là-bas. Peut-être jouer 1 ou 2 saisons, voilà, pour essayer de sortir par la grande porte. Sinon là, vraiment, c'est décevant vraiment. Même moi, vraiment, qui suis un grand fan de Pogba, parce que c'est un joueur qui donne tout, voilà. Mais c'est un peu décevant. Et je ne vois pas revenir au top niveau. Ce n'est pas possible. Parce que 4 ans, là, on ne parle pas de 4 mois ou 4 semaines. On parle de 4 ans. Donc après aussi, ça va dépendre s'il est bien préparé et tout ça. Si, voilà, s'il serait aussi dans les meilleures conditions. Est-ce que tu vois au niveau du mental? Mais ça serait difficile pour une équipe déjà de le relancer. Parce qu'il y a des joueurs par le passé comme Kolo Touré qui ont pu se relancer. Mais ce n'était pas 4 ans.
Mais le plus triste dans l'affaire Pogba, c'est qu'on dit qu'un joueur de foot, il a son apogée 26, 27, 28, 29 ans. Et lui, depuis qu'il a cet âge-là, c'est que soit des blessures. Ensuite, après les blessures, c'est les problèmes avec cette histoire d'extorsion de fonds de par un de ses deux frères. Donc, tu as l'impression qu'au moment où il était censé être à son apogée, en tout cas de son football, là où il pouvait aller gratter un ballon d'or, il se retrouve dans un club en difficulté, Manchester United. Il se retrouve à être dans une situation personnelle compliquée. C'est jamais facile d'être victime d'extorsion de fonds, et encore pire quand ça vient de ta propre famille. Donc, c'est triste, et que ça finisse comme ça sur une histoire de dopage, c'est extrêmement triste.
C'est vrai, franchement, bah, c'est très difficile, hein. Là, on a pu voir même dernièrement Florent Tapogba dans sa story qui a directement envoyé un message, enfin, qui a mis un message en story, bon, avec des smileys, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en lui souhaitant un bon courage pour la suite, et il dit que voilà, tout ça maintenant est entre les mains de Dieu et qu'on espère que ça ira beaucoup mieux. Mais maintenant, après avoir pris 4 ans, franchement, après, maintenant, même s'il revient à 2 ans, 32 ans, 33 ans même, parce qu'il a 31 ans là, à 33 ans revenir dans le football sans jouer au haut niveau pendant 2 ans, quelle suite pour Paul Pogba,
Non,
quelle suite!
je pense que ce sera du football plaisir après. Je pense que là, il est arrivé à un âge où ce sera du football plaisir. Et je lui souhaite d'aller chercher un gros contrat en Arabie Saoudite parce que la force de Paul Pogba, c'est aussi cette image de marque. C'est quand même quelqu'un qui vend beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui plaît aux pubs, etc. Donc, je pense que pour la suite de Paul Pogba, ce sera plus du football compétitif, mais du football plaisir. Aller chercher un dernier gros contrat, prendre de l'argent, être la figure de proue d'un championnat, que ce soit en Arabie Saoudite, en Chine ou aux Émirats, mais revenir à un football de haut niveau compétitif, quand on voit la difficulté des matchs année après année, quand on voit l'élévation du niveau, tu peux pas revenir après 2 ans de suspension, sachant que les 2 ans d'avant, tu étais presque tout le temps blessé, donc t'as pas enchaîné de matchs non plus. Ça fait limite 4 ans sans presque jouer. Si tu rajoutes à ces 4 ans, 2 ans, parce qu'on dit que c'est 4 ans de suspension, 6 ans sans presque jouer au football, c'est impossible de revenir à un niveau compétitif. Il pourra pas le faire, enfin, je pense qu'il pourra pas le faire en tout cas.
En tout cas, ça sera très difficile.
Très compliqué pour lui.
Je pense que ça sera très difficile pour lui. Mais bon, on espère en tout cas beaucoup de bonnes choses pour Paul Pogba et on attend encore qu'il refasse appel et qu'on attend la décision. Hein, et on sera là pour débattre sur cette décision-là. Mais en tout cas, c'est très mal embarqué pour Paul Pogba. On va avancer, on va rappeler les résultats de ce week-end en championnat. On va commencer avec ça. En championnat en France, on a pu voir notamment à bout le PSG faire un match nul 0-0 et très dominé contre Monaco.
C'est ça, un PSG pas très en forme à une semaine d'aller à la Real Sociedad, hein, le match du vendredi soir contre l'AS Monaco avec cette polémique Mbappé à la mi-temps qui, je pense, n'aide pas non plus les Parisiens. Il y a un but refusé pour hors-jeu de Wissem Ben Yedder, donc Monaco qui tient tête au PSG et le PSG qui concède encore une fois match nul après avoir déjà concédé le match nul face à Rennes la journée d'avant.
Merci Abou. Et qu'est-ce que toi t'en as pensé chez Kenza de ce match-là? T'as pu voir le match?
Ouais, j'ai regardé le match et j'ai vu vraiment que le Paris Saint-Germain, il était un peu dans le dur et tout ça. Et la sortie de Mbappé qui ne les aide pas vraiment réellement. Et on a senti vraiment l'équipe de Monaco qui maîtrisait son sujet et tout ça. Ils avaient une bonne assise défensive. Les latéraux aussi se projetaient beaucoup. J'ai beaucoup aimé le match de Wilfried Tsengo, voilà, qui prenait du plaisir et tout ça. Voilà, qui nous a sorti un match, un très bon match. Wissam Ben Yedder aussi qui était dans les bons coups. Et j'ai beaucoup aimé aussi le milieu de terrain monégasque, tout ça qui a créé pas mal de soucis au milieu de terrain parisien. Mais revenons sur le cas Mbappé, je comprends pas. Et la semaine dernière, je parlais de Luis Enrique, donc dans sa méthode de faire les choses et qui va pas surtout arranger le PSG pour le supporter parisien, parce que là, on part vraiment dans une mauvaise spirale et tout ça, parce que Mbappé, déjà, qui sort à la mi-temps, et en plus, qui part prendre sa douche et tout ça, c'est un signe qu'il est prêt aussi à aller au. Voilà, il est prêt aussi à
On
aller au
reviendra
combat.
sur le cas Mbappé. Là, on veut juste parler du match, vraiment, ce qui s'est passé entre Monaco et le PSG, en dehors de tout ça. Ce que toi, t'en as pensé du match? Le PSG se sont fait dominer. On a pu voir un 0-0 pas très avec un Monaco qui ont dominé. Qu'est-ce que tu as pensé de cette situation? Tu penses que le PSG, ils ont pas réussi à s'imposer à cause d'un problème tactique ou c'était plus au niveau physique? C'est ce point-là qu'on veut axer.
Je pense que moi, je pense que déjà, je pense que Luis Enrique, avec ses choix, bon, déjà, il a mis la composition qu'il voulait et tout ça. Bon, oui, je pense que oui, au niveau tactiquement, Monaco, ils ont été supérieurs. Ils ont été supérieurs, même avec l'animation du ballon et tout ça. Ils ont créé pas mal de problèmes, ils ont créé des situations et tout ça. Même, oui, ils avaient tellement cette aisance à jouer au ballon. On avait l'impression que le PSG jouait en rouge et blanc ce jour-là. Mais je crois bien que Luis Enrique, depuis pas mal de temps, ses compositions, tu vois, c'est un peu, je sais pas si c'est un peu fait au hasard, mais je comprends pas vraiment l'animation du jeu. Par moment, on peut avoir un PSG sur un match d'avant, par exemple, qui maîtrise son sujet, le match d'après, le PSG qui est moins. Je sais pas si c'est dû aussi à la profondeur de banc, mais il a mis les joueurs qu'il pouvait. Et depuis un certain temps, il fait confiance aussi à des jeunes comme Barcola et tout ça, qui lui donnent sa chance, mais. je crois pas que Bakola il a pu vraiment saisir sa chance parce que là, hormis le match face à la Real Sociedad, le match d'avant, il n'est pas là-dedans. Le match là contre Monaco, vraiment, on n'a pas un Bakola intincelant. On n'a pas vraiment ce joueur qui pourrait faire la différence et tout ça. Je crois que le PSG dans l'ensemble ne va pas bien, mais je le vois passer face à la Real Sociedad parce que comme ils ont déjà fait la plus grande partie, il suffit juste d'assurer le résultat.
D'accord, merci Chekenza. On va passer aussi sur le championnat italien. On reviendra après sur le reste du championnat français. On va passer sur le championnat italien où on a pu voir aussi un Juventus-Naples. Abou, est-ce que tu peux nous dire tes ressentis sur ce championnat et sur ce qui s'est passé dernièrement cette semaine?
La victoire du Napoli sur la Juventus 2-1. Napoli pas très en forme. Hein. Napoli 7e de Serie A qui va battre le 2e de Serie A, la Juventus. La Juventus aussi qui est pas très en forme. Hein. Une équipe de la Juventus qui sur ses 5 derniers matchs, sur ses 6 même derniers matchs, c'est une seule victoire face à Frosinone 3-2. Et encore, on l'a vu, pour ceux qui ont vu le match, c'était un match compliqué. Donc une Juventus pas très en forme, qui eux pourtant qui avaient bien commencé la saison, mais j'ai l'impression que ce match contre l'Inter, ça les a un peu fait perdre le fil, c'était un peu le match du titre avant l'heure. Donc compliqué pour la Juventus, victoire de l'AC Milan avec 3 cartons rouges pour la Lazio, 3 cartons rouges dont Matteo Guendouzi qui sur un coup d'humeur remet un coup à un joueur du Milan. Et
Qui s'est d'ailleurs très bien relancé, Guendouzi.
Ouais, Guendouzi qui fait une très très belle saison avec la Lazio, même si la Lazio ne va pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions via le championnat, mais qui fait une très très belle saison et qui même en Ligue des Champions performe. Donc ça a été un très bon choix pour le Marseillais d'aller se relancer en Italie. L'AS Rome, victoire contre Monza. Le départ de José Mourinho, il fait du bien aux joueurs de la Louve avec Lukaku une nouvelle fois buteur, de la même pour Paulo Dybala, deux joueurs qui performent dans cette équipe. Hein. Dybala qui est déjà à 12 buts dans le championnat italien, qui arrive à enchaîner, qui n'a plus de blessures, qui n'est plus embêté en tout cas par les blessures de manière récurrente. Et Romelu Lukaku, lui qui est à 10 buts, pareil, lui qui est parti à la Roma pour se relancer. Ensuite, il y aura match ce soir, si je ne dis pas de bêtises, en Serie A. D'ailleurs, match en cours qui a commencé là il y a 2 minutes entre l'Inter et le Genoa. Pardon, l'occasion pour l'Inter de prendre 14 points d'avance sur la Juventus à 11 journées de la fin, ce qui plierait définitivement le championnat italien.
En tout cas, on le pense fortement. Je pense que les carottes sont cuites de ce côté.
Ouais, c'est fini.
Oui, je pense que la Juve ne pourra pas revenir sur l'Inter Milan, même si c'était un objectif majeur quand même pour la Juve, hein, parce qu'ils avaient à cœur de vouloir jouer à fond cette Serie A. Mmh. C'est pour ça même qu'ils ont préféré écoper maintenant de leur suspension et de ne pas jouer l'Europe, du moins, parce que ça ne les intéressait pas de jouer la Coupe de Conference League. La Conference League. Ils ont préféré viser la Champions League pour l'année d'après, être privé de Conference League plutôt que de Champions League. Du coup, voilà, et ils visaient vraiment la Serie A avec Allegri qui est revenu et qui leur a donné un très bon rythme quand même. On a vu Vlahovic qui a retrouvé des couleurs, ces derniers temps. Vlahovic qui est à une dizaine de buts sur 8 matchs, ce qui reste très honorable dernièrement. Il enchaîne les doublés et les bonnes performances, ce qui fait de lui un titulaire indiscutable pour l'instant. Du côté de la Bundesliga, où le Bayern qui peine encore, qui fait un 2-2 avec Fribourg, et on a pu voir encore Bayer Leverkusen qui s'en vont tout droit vers le titre et qui viennent distancer encore son dauphin, le Bayern Munich, de 10 points d'avance.
C'est ça, Bayer Leverkusen, victoire à l'extérieur contre Cologne avec un but de Jérémy Frimpong, Frimpong qui en est à 10 buts et 10 passes décisives. Et de l'autre côté, hein, côté gauche, son compère Grimaldo qui a également marqué. Grimaldo, lui, qui a 11 buts et 11 passes décisives. Autant vous dire que sur les côtés du Bayer Leverkusen, c'est en feu. Et le Bayer Leverkusen qui va sûrement, probablement mettre fin à 10 ans de règne pour le Bayern Munich en Allemagne. Donc, très très belle chose. Le Bayern Munich, hein, encore une fois, tenu en échec contre Fribourg. Fribourg, 9e de Bundesliga. Le Bayern n'y arrive décidément pas cette saison. Hein. Günther qui ouvre la marque pour Fribourg. Égalisation du jeune Français Mathis Tel. Premier but, première titularisation pour le Français. Jamal Musiala qui donne l'avantage. Et à la 87e minute, malheureusement, Höhler qui va venir assommer les Munichois. Leipzig parfait. Leipzig qui gagne contre Bochum avec un but encore une fois de Loïs Openda. Loïs Openda qu'on n'arrête plus. Elle a 17 buts déjà cette saison en 24 matchs. Hein, lui qui a été recruté en provenance de Lens. Très bon match également de Dani Olmo. Du côté de Dortmund, on se relance. Victoire avec un but de Adeyemi et Madsen. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est la victoire de Stuttgart avec une nouvelle fois un doublé de Serge Gnabry qui fait une saison tout simplement formidable. Hein, Stuttgart qui vient se hisser à la troisième place juste derrière le Bayern Munich. Serge Gnabry, lui qui en est déjà à 20 buts en Bundesliga.
On est déjà plus proche de Stuttgart qui passe devant le Bayern Munich que Bayern Munich devant le Bayern Leverkusen. Et Stuttgart, voilà que tu dis si bien, ont enchaîné des très bonnes performances. Serge Gnabry, notamment, on l'entendait, en tout cas, du moins, il a beaucoup été convoité cet hiver pendant le mercato et on croyait même le voir à United. On a entendu des gros noms, en tout cas, Liverpool même. On a entendu pas mal de gros clubs qui se sont positionnés sur Serge Gnabry et lui qui a décidé de garder la tête froide et les pieds sur terre pour jouer encore avec Stuttgart et essayer d'aller chercher la Ligue des Champions. Et là, franchement, c'est très bien embarqué, en tout cas. Et je pense que c'est un bon choix parce qu'il continue à performer. Et malgré sa blessure, dernièrement, il n'a pas pu jouer une CAN à fond avec la Guinée.
Il ne fait pas une très belle CAN.
Il revient, en tout cas, il revient bien dans ses pompes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du championnat allemand chez Kinza?
Ouais, je pense que vraiment, le Bayern a fait pas mal du temps avec sa domination. Mais là, avec Xabi Alonso qui fait un travail remarquable et tout ça, et on constate que ces dernières années, le championnat allemand, il est devenu de plus en plus compétitif. Chose qu'auparavant, il n'y avait pas. Auparavant, il y avait Nog qui était respecté. Soit c'était Bayern, soit c'était Dortmund. Et peut-être une fois où le Werder est passé, ils ont pu remporter le titre, la Bundesliga. Mais là, vraiment, on constate que depuis pas mal d'années, le championnat a beaucoup évolué. On a des équipes compétitives comme le Leverkusen, qui, voilà, ça fait 2 saisons qui nous sortent des très bons résultats. On a aussi Leipzig et tout ça. Mais quand on regarde vraiment le classement, on voit que oui, bon, du côté du Bayern et le Leverkusen, il n'y a pas grande-chose. Hein. Il y a au moins 10 points de cas. Mais c'est encore jouable parce que là, il y a pas mal de temps. Ça va dépendre si les poulains de Xabi Alonso vont continuer vraiment sur cette lancée parce que là, ils sont sur de bons rails, voilà, pour aller chercher un titre. Ça serait bien parce que vu la saison énorme qu'ils font, vu les stats et tout ça, avec une équipe joueuse, tout ça, avec un système de jeu qui est bien en place, voilà, on a comme l'impression qu'ils maîtrisent bien son puzzle. Et les joueurs qui font les efforts les uns pour les autres, ça c'est très bien. J'aime beaucoup aussi le jeu de Stuttgart, qui est une équipe aussi qui se projette très bien, voilà, qui pourrait aussi mettre la pression sur le Bayern parce qu'il n'y a que 4 points de Stuttgart et le Bayern. Donc, je pense que la fin du championnat allemand, ça serait vraiment très, très mouvementé. Parce qu'on l'a déjà vu la saison dernière, le Bayern qui allait prendre le titre à Dortmund dans les dernières journées. Donc, j'aimerais pas vraiment revivre cette situation parce que je pense que le Bayern, Leverkusen, mérite vraiment de remporter le championnat vu la saison qu'ils font.
Merci, Cheikh Kenza. On va passer en Première Ligue. Hein. On va passer en Première Ligue. Abou, tu peux nous rappeler quelques... ce qui s'est passé en Première Ligue, hein, ça a été pas mal mouvementé.
Ouais. Le match marquant de ce week-end, c'est le derby entre Manchester City, entre les deux Manchester, les Reds et les Blues. Victoire 3-1 de Manchester City. Et pourtant, c'est Manchester United qui ouvre la marque par le biais de Marcus Rashford à la 8e minute. Phil Foden, en retour de mi-temps, 56e. Phil Foden qui fait une très très belle saison, va égaliser et ensuite doubler la mise à la 80e. Erling Braut Haaland pour mettre le coup de marteau final à la 91e minute. Victoire des Citizens. 3-1 les Citizens qui se classent deuxième du championnat derrière Liverpool. Liverpool qui eux ont battu Nottingham sur le petit score de 1-0, un but à la 99e minute, hein, juste avant la toute fin de match, un but de Darwin Núñez. Juste derrière les Liverpool qui est premier du championnat. Ensuite, juste derrière Liverpool, Manchester City, comme je le disais, Arsenal qui eux pour le coup vont jouer Arsenal qui joue ce soir contre Sheffield qui joue dans 4 minutes. Oui. Contre Sheffield United, l'occasion pour Arsenal de revenir à 3 points de Manchester City. L'équipe impressionnante, c'est Aston Villa surprenant, 4e de Première Ligue, qui a réussi à battre Luton sur le but de 3-2 avec une formidable saison de Ollie Watkins, 27 matchs, 16 buts, 10 passes décisives pour l'Anglais qui fait une excellente saison, qui se classe comme étant le deuxième meilleur attaquant anglais juste derrière Harry Kane. Les Anglais qui ont une attaque de feu avec Bukayo Saka aussi qui fait une très très belle saison. Une équipe qu'on doit craindre pour l'Euro. Tottenham, eux, qui se relancent après leur défaite face au Wolves et qui battent Crystal Palace 3-1 avec des buts de Timo Werner, notamment Timo Werner qui marque son premier but depuis son arrivée à Tottenham.
Merci Abou pour ces précisions. Avec nous Alfred ce soir qui vient nous rejoindre. Alfred, comment vas-tu ?
Je vais très bien, Elhadj.
Un peu de bouchon, hein, c'est Paris, hein, c'est ce qu'on disait juste avant. Ça va, en tout cas, tu as pu arriver à bon port.
Ouais, merci. Ouais, c'est vrai que j'ai pris un peu de retard, mais bon, j'ai tenu à venir. Il faut respecter ses engagements, donc je ne veux pas décevoir, donc aujourd'hui je suis là.
Merci en tout cas d'être là avec nous aujourd'hui, Alfred. Alfred, on était sur le championnat anglais et voilà, on voulait savoir si tu avais vu le match entre le derby entre Manchester City et Manchester United et qu'est-ce que tu en avais pensé.
Ben, de toute façon honnête, je n'ai pas pu regarder, mais je vais rejoindre un peu les propos de mon collègue tout à l'heure. Aujourd'hui, les performances de Liverpool sont exactes. Manchester City, si. Et puis bon, ben Arsenal est dans la suivi aussi. Donc pour moi, le championnat anglais, il a un certain niveau. Donc après, comme je dis, la Ligue anglaise, elle se joue toujours dans les dernières phases. Donc il faut garder le maximum d'endurance. Ce sont les derniers trucs. Après, je dis, le trio devra se jouer entre voilà, City et Liverpool et Arsenal. Donc moi, pour moi, on attend de voir. C'est pour moi, mais Liverpool est en bonne position pour pouvoir terminer le championnat.
On a quand même ce gros match qui arrive très bientôt entre Liverpool et Manchester City le 10 février. Du coup,
non, pas le 10 février, le 10 mars.
Oui, le 10 mars, pardon, je suis complètement à côté. Du coup, le 10 mars, on va avoir un très beau match et je pense que ça sera un tournant du match entre Liverpool et Manchester City. Du moins, en tout cas, ça va être une prise de position claire et nette pour le titre de Premier League. Et on n'oublie pas, en tout cas, que Manchester City a encore Arsenal à jouer. Ils ont Arsenal et Liverpool. Liverpool et Arsenal qui ont déjà fait leur double confrontation, donc qui n'auront pas à rejouer d'ici la fin de saison, ce qui peut avoir son importance, je pense.
Tout à fait.
Du coup, voilà, on verra en tout cas. Et on se retrouvera très bientôt pour ce très beau match, en tout cas, on espère. Et du coup, on va passer dans le championnat espagnol où on a pu voir notamment pas mal de petits problèmes, hein, notamment au niveau de l'arbitrage. Oui. On pense tout de suite au match entre Valence et Real Madrid. Oui. C'était un match très animé. C'était un match très animé déjà. On sait bien que Netflix sont en partenariat avec Vinicius en ce moment, en train de collaborer pour essayer de retracer un peu son parcours. Et Valence qui ont refusé d'accueillir l'équipe Netflix pour que le reportage soit fait à Valence. Ils refusent vraiment, notamment avec les derniers incidents qui se sont passés à propos du racisme. Oui. Et à propos du racisme, pardon, du coup, qu'est-ce que toi t'en as pensé du match ? Voilà, on va plus rentrer dans le vif du sujet. Sur le match, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Le match, je ne l'ai pas vu, mais le mot que tu viens de sortir au niveau, ma foi, du racisme dans le football aujourd'hui, il faut le bannir. Ce que je ne comprends pas, ce que je n'accepte pas, c'est que des gens, des humains, portent des valeurs sportives, viennent dans le sport et ils sont traités autrement. Or, quelque part, ce combat-là, c'est un combat qui doit aller jusqu'à loin. Donc aujourd'hui, je pense que cette histoire du racisme, elle doit surpasser. Quand on regarde bien ceux-mêmes qui mettent le football en valeur, enfin, excuse-moi, je ne vais pas être péjoratif, mais c'est les hommes de couleur de peau. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire. La seule chose que les hommes de couleur de peau n'ont pas peut-être assez de moyens pour pouvoir défendre l'art. C'est-à-dire que parfois, ils sont traités et on essaie de savoir quand le phénomène prend de l'ampleur, les gens y réagissent. Mais c'est un combat qui doit être détruit. Thuram l'a combattu et Thuram continue toujours de le combattre. On ne peut pas demander à quelqu'un qui vient d'ici par là de ne pas entraider, de ne pas être dans le football. À ce qu'on sache que le football, c'est un sport de pauvres. Et c'est, quand on regarde bien, c'est les minorités qui donnent ma foi de la valeur à ce sport-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas exclure des gens. Donc faire semblant d'être avec eux, en portant les traités de n'importe quoi, mais quand ils marquent, quand ils gagnent quelque chose, on les ovationne. Pour moi, c'est de la méchanceté.
Merci Alfred. Cheikh Kenza, toi, par rapport au match, qu'est-ce que tu en as pensé ? On a vu Valence qui menait 2-0 et le Real Madrid qui sont arrivés et qui les ont rejoints à 2-2 vers la 70e minute. Et ensuite, cette dernière action où il y a eu ce but vraiment très litigieux où l'arbitre siffle au moment où Brahim Diaz commence à centrer et juste après une tête reprise par Bellingham où ça fait 3-2 et l'arbitre qui dit que non, j'avais sifflé avant. Qu'est-ce que toi t'en as pensé?
Je pense que c'est une situation litigieuse parce que depuis l'avènement, depuis pas mal d'années, depuis 2 ou 3 ans, le Real a un petit souci. Je ne sais pas si c'est au niveau de la Ligue avec Javier Tebas qui a un souci avec l'institution madrilène ou quoi, mais je crois que le Real est beaucoup victime de la part des arbitres espagnols et c'est un fait encore qui vient de se vivre. Parce que là, moi, je crois que l'arbitre se doit de laisser l'action continuer. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles d'arbitre. Parce que là, c'est une action de but. Donc, il se doit de laisser l'action continuer. Et après, il siffle à la fin. Mais je n'ai pas compris déjà la décision de l'arbitre sur le fait de revenir qu'il avait mis le but, il est totalement accordable. Je crois que cet arbitre, il va se prendre une sanction et tout ça. Et je pense que le Real, déjà, oui, Valence, ils étaient bien dans les matchs et tout ça. Mais à un moment donné, au début du match, on n'avait pas vraiment un grand Real et tout ça. Et après, le Real, ils ont repris du poids de la bête et tout ça avec Carlo Ancelotti. Je sais qu'il y a eu des consignes et tout. Et j'ai beaucoup aussi aimé le match de Vinicius, tout ça, qui fait un très, très beau match, malgré tous ces petits soucis qu'il a avec le club de Valence. Pour moi, qui est un club un peu raciste, même si on ne le dit pas, oui, c'est un club raciste, parce que c'est cette région d'Espagne où il y a beaucoup de racisme. Et en Espagne, en Italie, c'est des pays où des joueurs vraiment se font marcher là-dessus. Je crois que le sport, il faut prendre des mesures, il faut prendre des mesures contre le racisme parce qu'il n'y a pas que le sport, on peut être victime du racisme un peu partout, mais il faut prendre des mesures parce que là on est au 21e siècle maintenant et ça ne peut pas continuer ainsi.
Merci Cheikh Kenza. En tout cas, c'est sûr qu'on est contre l'esclavage et toute forme de raciste, du moins. On a compris en tout cas ton message. On a pu voir des pancartes de singes un peu déboulées et des monkeys, entre guillemets, sifflés et dits hautement dans les stades. En tout cas, voilà, on ne partage pas ces valeurs-là. On respecte tout le football et tous les joueurs. Et n'importe où, parce que le football, c'est vraiment quelque chose de communion où vraiment on doit tous se retrouver, peu importe la couleur, peu importe tout. Et c'est vraiment en termes de football qu'on doit parler. Et du coup, sur ce qui s'est passé, hein, notamment là, dernièrement, sur le match, Matteo Laoz, on le rappelle, qui est maintenant le président des arbitres, et dit qu'il ne comprend pas. Qui ne comprend pas l'arbitre. Franchement, une telle erreur après 11 ans après 11 ans quand même d'expérience dans la Liga, il ne comprend pas que cet arbitre-là puisse faire une faute aussi grossière. Donc du coup, on espère, en tout cas on pense que derrière il y aura des sanctions sur l'arbitre de ce match. Et Bellingham d'ailleurs, qui a écopé d'un carton rouge, hein, qui est assez litigieux, le Real Madrid qui ont dit qu'ils feront appel. Mais voilà, en tout cas on verra la suite très prochainement et on va la suivre de très près. Du coup, avec nous, Stéphane, qui nous a rejoint. Comment vas-tu, Stéphane?
Ben, très bien. Bonsoir à vous. Je vous entendais bien, puis là, un peu moins bien, là, maintenant.
Là donc, ça va?
Ouais, nickel. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je partage tout ce qui a été dit sur ce match du Real Madrid. Effectivement, je ne l'ai pas vu non plus. J'ai vu, bien sûr, la fin, les actions et tout. Oui. Une énorme erreur d'arbitrage, mais... je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas un complot, que ça n'a pas été fait sciemment, en tout cas. Voilà. Contre le Real Madrid, notamment.
Oui, on espère, hein, on repense à l'affaire Negreira, on est obligé en tout cas d'y repenser, hein, et on espère que ce n'est pas un complot et que c'est juste une erreur d'arbitrage, une de plus, que ça sera, et que du moins ça sera sanctionné derrière et pour plus que ça se reproduise. On va retourner sur le championnat français, Stéphane. On sait que tu as beaucoup, que tu suis très près la Ligue 1 tous les week-ends. Ouais. Du coup, on voulait revenir sur quelques résultats et notamment sur ce qui s'est passé du côté du PSG. Voilà, on sait bien, t'as toujours de bonnes infos, hein, Stéphane. Du coup, on t'écoute, toi, qu'est-ce que t'en as pensé déjà dans un premier temps du match entre Monaco et le Paris Saint-Germain qui s'est soldé par un 0-0 où le PSG se sont fait pas mal bouger, notamment en première période.
Ouais, voilà, bah, moi j'en ai pensé que... moi, j'ai plus tellement d'analyse sur la Ligue 1 du Paris Saint-Germain à partir du moment où ils ont 10 points. Je ne sais pas si je l'avais dit déjà la semaine dernière ici. Je pense que Luis Enrique, il en a un peu rien plus grand-chose à faire de la Ligue 1, malgré tout ce qu'il peut dire. Il y a eu une mi-temps de chaque côté. J'ai trouvé quand même, pour ma part, la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain très, 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 très positive. Et en possession de balle, ça doit être là, très largement. Puis même en occasion, en tout, ils ont été pas mal. Ils vont jouer à Monaco, qui est à la base, sur le papier, un des leurs principaux adversaires pour le titre. Ils les ont battus au Parc. Ils vont faire un match nul là-bas avec Akinchi. Et si on veut passer un petit peu au-delà de ça, en tant que suiveur du Paris Saint-Germain, il y a pour moi quand même deux éléments, notamment avant un match de Ligue des Champions qui va arriver mardi, qui sont très, très intéressants. Et des bonnes nouvelles, c'est le match de Donnarumma, qui devient, je pense, aujourd'hui, qui est redevenu le meilleur gardien de la Ligue 1. Et puis le match de Lucas Beraldo derrière aussi, dans l'axe, qui est pour moi beaucoup plus qu'un remplaçant maintenant. Et quelque part, heureusement que Danilo était blessé, parce que sinon, Lucien Riquet aurait peut-être mis Danilo et ça aurait été très compliqué, notamment en première mi-temps, avec la rapidité des Monégasques. Moi, sur le match en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, après, si vous voulez, on peut parler de la polémique.
On va y venir.
Voilà, mais sinon, non, sur le match en lui-même, moi, je trouve que on en parlait tout à l'heure avec Philippe là, dans mon Paris Sport. Je pense que le Paris Saint-Germain peut être content de ramener un nul, de là-bas. Ils ne vont pas gagner tous les matchs. Monaco ne joue aucune Coupe d'Europe, ne joue que le championnat, n'a que ça à faire. Eux, ils ont autre chose à faire. Il a à faire tourner ses joueurs. Je ne parle pas bien sûr de Mbappé, mais même pour les autres. Et puis, je pense que c'était effectivement une première mi-temps inquiétante, comme la première mi-temps contre le Real Sociedad était inquiétante. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus intéressante contre les Basques. Elle a été beaucoup plus intéressante aussi hier c'était samedi, le match contre Monaco. Donc voilà, quoi. Je trouve, en tant que suiveur du Paris Saint-Germain, je suis satisfait avant un match très important comme celui qui va avoir lieu demain.
Merci Stéphane. Du coup, oui, on va revenir notamment sur la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique. Peut-elle mettre en danger la fin de saison du PSG? Qu'est-ce que toi t'en penses, Stéphane?
Elle mettra en danger la fin de saison du PSG. Déjà qu'il y a en Ligue des Champions, parce qu'elle ne mettra pas en danger la fin de saison du PSG en championnat. C'est-à-dire que,
et en Coupe de France.
Il peut ne plus jouer du tout, Kylian Mbappé, Paris va quand même gagner le titre, je pense. Maintenant, c'est sûr qu'en Ligue des Champions, comme je disais, moi, je pense que il voit plus une… Oui, elle peut mettre en danger la fin de saison du Paris Saint-Germain, hein, parce que là, ça a un peu secoué dans les brancards, parce que le problème, comme on peut le voir, c'est que contrairement à l'Espagne, où vous avez vu dans l'Espagne, il y a un match contre une équipe espagnole demain, ben on apprend que, comme par hasard, Luis Enrique, il est suivi par Barcelone, comme par hasard, je ne sais plus quoi, même on a un Luis Fernandez, alors là, j'ai du mal, j'en suis tombé de ma chaise, qui va expliquer dans un article dans les journaux espagnols comment faire pour battre le Paris Saint-Germain. Alors ça, je tombe des nues quand on voit ça. Mais voilà. Et puis nous, en France, on casse. Voilà. Enrique, il est nul. Enrique, il ne devait pas faire ça. Il ne devait pas faire ci. Et puis voilà. Donc c'est sûr que ça peut mettre en danger. Mais c'est ce que moi, j'avais dit de toute façon. Hein, que c'est vrai que c'était un peu, insolvable comme problème. Hein, parce qu'il faudrait qu'il faut le dire à un moment donné. Ça ne peut pas rester secret et tout. C'est compliqué. Mais c'est vrai que moi, on le savait à l'avance. Hein, que s'il annonçait Kylian Mbappé d'une manière ou d'une autre, qui quittait le Paris Saint-Germain avant la fin de la saison, forcément, ça allait influer sur le truc. Alors moi, effectivement, après, ça peut. Pourquoi ? Parce que je suis d'accord. Après réflexion, ce n'est pas forcément ce que j'ai pensé tout de suite, mais quand même après réflexion, que je suis désolé, on ne traite pas un joueur qui est dans le top 5 mondial ou même le top 10, on va dire, des meilleurs joueurs du monde, comme n'importe quel joueur. Je suis désolé, je suis contre cette phrase qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, il faut le traiter comme les autres et tout. Quand Lionel Messi était sur le terrain, même avec Paris, même quand il n'était pas bon, vous dites, Messi, il reste 90 minutes, il peut te sortir un truc et faire marquer mal. Et Kylian Mbappé, c'est exactement pareil. Donc c'est forcément un atout de en moins, quoi. Donc merci. Si on passe,
oui. Voilà. Oui, merci Stéphane. Alfred, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de la gestion du PSG, en tout cas de Luis Enrique vis-à-vis de Kylian Mbappé? Qu'est-ce que tu en penses?
De toute façon, moi, mon avis, il est très simple. Le coach en lui-même, c'est quelqu'un qui vient d'arriver dans le championnat français. Kylian Mbappé, c'est une identité française. Après, s'il doit avoir un problème de personne avec lui, je pense que en tant qu'entraîneur, il n'est pas à la hauteur. Il devrait se mettre au-dessus. C'est un footballeur. Aujourd'hui, on ne peut pas Alors, je ne sais pas comment le dire, mais c'est l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui. Voilà, du football. Donc aujourd'hui, le traiter de cette manière, c'est un petit manque de respect. Maintenant, il a annoncé qu'il doit partir. Au contraire, dès l'instant où quelqu'un a servi pour un club, son départ doit être considéré comme un départ d'harmonie, qu'on doit se tendre la main, le laisser terminer jusqu'à la fin du championnat. Après tout, tout athlète reste salarié d'un club. Donc, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le footballeur, ils sont des salariés. Donc, le respect doit être mutuel. Maintenant, si ce n'est pas un problème de personne, j'ai l'impression un peu qu'il n'y a pas de reconnaissance au niveau de Kylian Mbappé, de tout ce qu'il a fait. Parce que si Paris devient champion aujourd'hui, il en fait partie. Donc aujourd'hui, je pense que l'entraîneur doit quand même faire profil bas. S'il doit avoir changement, s'il est en méforme, je peux bien comprendre. Mais voilà, quelque part, lui aussi, il a annoncé, il doit partir, qu'on respecte ses choix. Donc pour moi, je pense qu'il ne doit pas avoir de polémique. Chacun doit jouer son rôle jusqu'à ce que le championnat se termine, c'est tout.
Merci Alfred. Cheikh Kenza, dis-nous, qu'est-ce que toi t'en penses maintenant de la gestion de Luis Enrique avec Kylian Mbappé ?
Je pense que la gestion de Luis Enrique vis-à-vis de Mbappé n'est pas bonne. Parce qu'il y a une semaine, j'avais décrié celui-là et déjà qu'il avait déjà fait sortir et tout ça. Même si Mbappé, il est complètement exemplaire, il a fait sortir Mbappé, il est venu, il a salué et tout ça. Mais là, je pense que c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Je ne crois pas qu'ils auront de bons rapports pour le reste du temps que Mbappé fera du côté du PSG. Je pense qu'il néglige un peu Mbappé, il ne le respecte pas parce que Mbappé, c'est une légende aujourd'hui. Quand on parle du PSG, Mbappé, c'est une légende. Je crois que c'est une légende. Je crois bien même que c'est le meilleur buteur du club et tout ça. Et 7 ans, quand on parle de 7 ans, on ne parle pas de 7 mois ou de 7 semaines, on parle de 7 années durant laquelle il a tout donné. Et à deux reprises, il a même snobé le Real de Madrid pour rester dans sa ville de cœur et tout. Mbappé, il a démontré l'amour qu'il a vraiment pour Paris et tout ça, même pour le football français, pour le championnat français. Donc, je pense que déjà, Luis Enrique, je ne sais pas comment il a pris la situation. Je pense un peu que ça dépasse un peu Luis Enrique. Je pense que c'est un truc qui vient de la hiérarchie, c'est-à-dire soit le président du club ou soit les dirigeants. Je pense que ce n'est pas au niveau de Luis Enrique parce que ça fait deux fois qu'il le fait. Et à chaque fois, on a comme l'impression qu'il a déjà dit en conférence de presse qu'il doit s'habituer à jouer sans Mbappé et tout ça. Donc ça, c'était déjà un signe qui annonçait un peu que... Au niveau des relations, Mbappé avec Luis Enrique, les relations seront tendues. Et Mbappé aussi, je pense que Mbappé, il a fait un geste qu'il ne devait pas le faire. Dès l'instant qu'il sort, il n'aurait pas dû vraiment prendre sa douche et monter en tribune. Normalement, il se doit d'être professionnel. Même quand tu sors à la mi-temps, tu te dois de rester vraiment sur le banc de touche et tout ça. Parce que c'est une équipe, quoi qu'il arrive, c'est des choses qu'il peut régler en interne, voir le coach et discuter avec lui. Lui demander s'il y a un problème particulier avec lui ou c'est du fait qu'il a décidé de partir. Parce que je pense que vraiment, déjà, l'attitude de Mbappé vis-à-vis de ça, moi, je n'ai pas beaucoup apprécié. Parce qu'il se doit d'être professionnel. Déjà, et en plus, c'est une figure vraiment emblématique et tout ça. C'est le capitaine de l'équipe de France. On ne parle pas de n'importe quel joueur aujourd'hui. Mais là, on parle même du meilleur joueur mondial à l'heure actuelle. Parce que oui, donc c'est Mbappé. Donc, néanmoins, il devait au moins rester sur le banc, faire preuve aussi, faire preuve de professionnalisme et montrer à Luis Enrique qu'il est plus grand que tout ce qu'il fait. Et je n'ai pas beaucoup apprécié.
Merci, Cheikh Kenza. En tout cas, on sait que Luis Enrique et Mbappé se sont entretenus. Luis Enrique qui continue un peu à s'amuser avec les journalistes dans sa façon de s'exprimer ou comment il explique comment il gère le cas Kylian Mbappé avec beaucoup de petites blagues où notamment il dit qu'il ne comprend pas, il faudrait un traducteur. Et dès que le traducteur y vient, carrément, on a vu même un journaliste qui a directement répété la question en espagnol. Et là, il a dit bien joué. Et rigoler encore un peu, on a pu voir ces images-là. Abou, toi, qu'est-ce que t'en penses maintenant du cas et comment Luis Enrique gère Kylian Mbappé ?
Moi, je pense que Luis Enrique gère Kylian Mbappé comme il a toujours voulu gérer Kylian Mbappé, c'est tout. Maintenant, il sait que Kylian Mbappé va partir. Lui, son rêve depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est de gérer Kylian Mbappé comme ça. Il ne pouvait pas pour diverses raisons, notamment le fait que Kylian Mbappé est la figure de proue du PSG, que c'est le joueur le plus important de l'effectif, que faut le faire jouer parce que sinon il va pas prolonger, que s'il prolonge pas c'est une catastrophe pour le club financièrement, etc., etc. Donc s'il te plaît Luis, on te prend comme coach, mais fais l'effort de faire jouer Kylian, fais l'effort de répondre à tous les caprices de Kylian Mbappé. Maintenant qu'il sait que Kylian Mbappé va partir, il gère la situation comme normal, comme s'il avait un autre joueur sous les mains. Et c'est, enfin moi je trouve ça pas étonnant, je trouve ça lâche, je trouve ça pitoyable, je trouve qu'un joueur, tu le gères de la même manière de A à Z, et si t'es pas content de la manière dont tes présidents te disent de le gérer, bah tu signes pas dans ce club-là. Mais aujourd'hui, de faire ça parce que tu sais ça, je trouve ça lâche de la part de Luis Enrique, mais il le gère tout simplement comme il a toujours voulu le gérer, et ça se voit que... Kylian Mbappé, il a un peu de mal avec lui. C'est comme il y a un match, je ne me rappelle plus lequel, où le PSG gagne largement. Stéphane a sûrement le match en tête, où le PSG gagne largement et en conférence de presse, il dit oui, ouais, Mbappé, il a marqué beaucoup de buts, mais j'aurais aimé qu'il fasse plus d'efforts défensifs. Je sais plus c'était.
Reims ou à Brest, il met un triplé Mbappé.
Ouais, bah, ça et... doit être ça, où il dit j'aurais aimé qu'il. Plein de petites piques comme ça à gauche, à droite.
Je ne suis pas tellement d'accord avec toi, juste d'une chose, c'est que moi, en tout cas, selon mes informations de proches du club, Kylian Mbappé s'entendait très, très, très bien avec Luis Enrique. Ils s'entendaient bien, justement, après cette fameuse intervention de Enrique. Il avait dit à Mbappé
qu'il était d'accord.
Qu'il était d'accord, qu'il comprenait. C'était un petit jeu qui s'est fait ensemble. Moi, effectivement, quelque part, il a peut-être un peu pété les plombs parce que c'est même pas. Je t'arrête juste sur un truc, c'est que j'ai beaucoup essayé d'analyser, réfléchi et discuté avec des entraîneurs ou des choses. Là, j'ai sous mes yeux un article qui va passer demain d'un entraîneur français qui massacre Enrique, une insulte limite. Il m'a envoyé une. Bref. Mais j'en ai beaucoup parlé. Il y a sortir parce que t'es pas très bon. Mais regarde, dans des matchs de foot. Regarde d'images de foot. Combien il y a de joueurs qui sortent à la mi-temps? Des joueurs pas blessés qui sortent à la mi-temps, c'est vraiment quand l'équipe elle est nulle. Alors des fois ils disent tous ouais j'aurais pu sortir tout le monde, j'en ai choisi un ou il en choisit deux ou trois. Mais un joueur comme ça qui sort à la mi-temps, c'est vraiment là une attaque hyper personnelle quoi. Donc moi je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure. Je crois que c'est Alfred si ou je sais pas qui a dit ça. S'il fait ça depuis le début de la saison, ok. Maintenant il a le feu vert peut-être de la direction, alors genre je vais faire n'importe quoi, je suis désolé, pardon, moi j'anticipe, demain on va jouer à la Real Sociedad, le PSG joue, même s'il y a 0-0 et que Mbappé n'est pas bon, il faut le laisser sur la pelouse jusqu'au dernier moment, à 80e minute il peut te faire un truc, te mettre un but insensé, il peut y avoir un pénalty à tirer, c'est lui qui aura l'écran, le mental et le courage de tirer le pénalty et de le mettre. Quoi.
Stéphane, excuse-moi de te couper, mais comment du coup t'expliques cette fracture si il s'entendait bien, enfin, est-ce que toi tu as des infos à ce niveau-là de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe d'un joueur que j'apprécie plutôt bien en dehors de la non-prolongation?
Non, moi j'ai pas d'infos, si ce n'est que peut-être avec ma philosophie à deux bases, je dirais qu'il a été vexé que Mbappé le dise d'abord à Nasser Al-Khelaifi avant de venir lui en parler, je sais pas. Mais le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont dites. Par exemple, moi, j'ai une autre info. Alors celle-là, mais personne ne l'a confirmée, mais personne ne l'a non plus infirmée. C'est qu'il y aurait eu un des dirigeants du Paris Saint-Germain présent à Monaco qui lui aurait proposé et qui lui aurait dit de venir s'installer en tribune. Qui lui aurait proposé de venir s'installer en tribune. Parce que moi, quoi qu'on en dise, que même si Enrique, je ne partage pas du tout ce qu'il a fait, je l'ai trouvé tout de suite inadmissible le fait que Mbappé il a s'installé en tribune. Je n'ai jamais vu ça de suiveur de foot dans toutes les conditions. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quoi. Jamais j'ai vu ça. Donc, et puis, là, ça, malgré tout, ça fait, à part chez les supporters, ça ne fait aucun bruit carrément. Donc, c'est très étonné que après... qu'il ne soit pas sanctionné. Quoi.
Oui, après, je pense que c'est comme tu l'as dit, hein, maintenant c'est Luis Enrique, il dit bon, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux quand j'ai envie et personne ne va me dire quoi que ce soit. Et je pense qu'Mbappé, maintenant, il part de ce principe où si on ne me respecte pas, je ne vais pas respecter aussi. Et je pense que ce n'est pas en vue directement du club, hein, mais plus de Luis Enrique qui l'a fait un truc comme ça.
C'est un jeu dangereux, ça.
Oui, c'est un jeu dangereux. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord non plus pour le fait qu'on le voit partir en tribune. Même s'il redescend derrière et qu'il vient sur la pelouse saluer ses autres coéquipiers ou quoi, mais on peut aussi notamment penser que franchement c'est un manque de respect ce que Luis Enrique lui a fait une fois face à Rennes, une deuxième fois là face à Monaco à la mi-temps en plus, et il lui a donné aucune raison valable hein, de ce qu'on a vu en tout cas et de ce qu'on a lu, il lui a donné aucune raison, il lui a juste dit tu sors, t'es remplaçant, tu sors, il lui a juste dit ça à la mi-temps, ça a été vraiment une phrase quoi. Et du coup,
moi je pense que malgré tout, ça c'est ma façon, c'est mes valeurs et tout, malgré tout il aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Il aurait dû rester, droit dans ses bottes et rester. Il aurait eu. Mais je dis juste que je suis juste étonné que, en ce qui concerne le club, il n'y ait pas eu plus de bruit en interne sur ça. C'est tout. Je pense que dans n'importe quel autre club, il y a un joueur qui sort à la mi-temps, qui va en tribune, à faire des selfies. Bon, ça, c'est même si on lui a dit d'aller, il n'était pas obligé de le faire, d'aller en tribune. Je trouve ça incroyable qu'il n'y ait pas eu un communiqué. Le club condamne l'attitude de Kylian Mbappé ou quoi que ce soit. Alors, peut-être parce que c'est à 4 jours de la Ligue des Champions. Mais je suis assez étonné. Donc, je me dis que peut-être, c'est là autant pour les relations Enrique Mbappé avant que ça tourne au vinaigre, je suis quasiment sûr de mes sources. Là, j'en suis moins sûr de ça, mais si ça pourrait expliquer en tout cas qu'il y ait ou peut-être quelqu'un qui a eu tort de lui dire, ou je ne sais pas, j'en sais rien, mais c'est parce qu'il y a Nasser El Khelaifi, il était au match, hein, je crois.
Oui, il était au match.
Ouais, donc il y aurait pu avoir un recadrage tout de suite aussi. Hein.
Oui, bah après ça c'est très compliqué devant des centaines de caméras. Je pense qu'en interne c'est beaucoup mieux, surtout en vue de ce qui se passe un peu entre les deux parties. Je pense qu'il fallait faire un peu profil bas, surtout qu'il y avait la mère à Kylian Mbappé hein, qui était présente et qui l'a rejoint notamment dans les tribunes. Je pense qu'il ne fallait pas jeter encore plus d'huile sur le feu qu'il n'y en est déjà. Et je pense que ça a été une bonne chose, en tout cas du moins s'il ne l'a pas pris à partie directement. On va continuer hein, avec tout simplement on va lancer le 30 secondes chrono. Ça va être parti et on va commencer avec Cheikh Kenza, c'est parti.
Mon 30 secondes chrono, c'est un sujet qu'on avait déjà parlé, c'est l'arbitrage, vraiment le but qui s'est fait refuser, le but de Jude Bellingham qui s'est fait refuser, vraiment, je comprends pas vraiment, et c'est pas la première fois, et ça fait plus de 27 buts que le Real de Madrid se fait refuser par la VAR, avec des situations litigieuses, avec l'arbitrage vraiment en Espagne qu'il va falloir y voir. Là, j'attaque directement M. Ravetebas, je comprends pas s'il y a un problème particulier avec l'institution madrilène qu'il en parle, ou c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir dans le football.
Merci, Cheikh Kenza. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, on est tous unanimes. On a déjà parlé et on n'a pas besoin d'en dire plus. On va enchaîner avec Alfred, le 30 secondes chrono, s'il te plaît.
Bah, je parlerai de Brest. Brest qui fait une montée spectaculaire au niveau du football français. Je pense qu'ils doivent être deuxième ou je ne sais pas quel lien. Donc oui, deuxième. C'est une équipe bretonne qui, avec un entraîneur qui a été simple, oui, un bon footballeur. Mais voilà, donc je pense qu'il faut apprécier, il faut voir, ma foi, dans les derniers matchs à venir, si Brest peut tenir la cadence jusqu'à terminer en tant que club pour une compétition européenne l'année prochaine. Il faut saluer son parcours jusqu'à présent.
Merci Alfred, je pense qu'on est tous d'accord et tous unanimes pour dire que Brest font une très belle saison et qu'on pense qu'ils joueront une Coupe d'Europe l'année prochaine et même la Ligue des Champions, en tout cas c'est bien embarqué et ils continuent à positiver. Et on leur souhaite beaucoup de bonnes choses à ces Bretons. Abou, c'est parti.
Moi c'est pour rendre hommage, non, mais pour saluer en tout cas les performances d'Iliman Diagne depuis maintenant 2 matchs. Lui qui est arrivé à Marseille, son club de cœur, son club d'enfance, il y avait un peu cette pression sur les épaules, je pense, en arrivant à l'Olympique de Marseille. Il y avait un peu cette peur, il a fallu du temps pour le libérer, pour qu'il se lâche. Après il n'a pas joué à son poste, maintenant il joue à son poste, il marque des buts, il est performant, il fait une très belle saison et on voit les qualités pour lesquelles l'Olympique de Marseille l'a recruté. C'est un joueur très intelligent, très habile, balle au pied. Je suis très content pour lui et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison.
Merci Abou. Bah, on va demander à Stéphane, s'il te plaît, ton 30 secondes chrono.
Alors moi, je vais aller vite, mais c'est pour dire que je vais souvent tirer dessus dans cette émission sur Paulo Longoria, mais je pense que Paulo Longoria a réussi un coup de poker extraordinaire. Il a su quand il fallait qu'il change d'entraîneur, parce que c'est le Shakhtar qui n'a pas joué cette année, qui a joué 2 matchs officiels à part le match aller, c'est Montpellier, c'est Clermont, ça va être Nantes, bon, il y a Villarreal entre les deux, des petits clubs qui sont à la portée de Gasset pour qu'ils remettent l'équipe en marche avant d'attaquer la dernière ligne droite, et c'était le meilleur à faire. Donc chapeau Monsieur Longoria.
Merci Stéphane. On va en parler, hein, je pense, maintenant de ces prochaines séances en Europe. Marseille notamment, hein, on a vu Marseille qui brille depuis l'arrivée de Gasset, notamment en Ligue 1. On a pu les voir s'imposer largement, très largement face aux Clermontois 5-1. Et avec Aubameyang qui brille et qui même ambitionne de pulvériser le record en une saison de meilleur buteur avec, avec l'Olympique de Marseille. Abou, dis-nous tout.
Ben, le match contre Villarreal, ça va être un match, moi je pense, très compliqué. Parce que autant Marseille pulvérise ses adversaires 5-1, autant Villarreal, quand ils voient ça, ils prennent exemple et eux aussi pulvérisent leur adversaire de leur côté 5-1. Donc on est sur deux très belles équipes. On est sur un coach qui connaît très bien l'effectif de l'Olympique de Marseille pour l'avoir coaché en début de saison, même si l'histoire d'amour a été plus que brève. Et en plus de ça, on est sur une équipe de l'Olympique de Marseille qui, depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, n'a pas eu un adversaire de ce niveau-là, en tout cas de ce standing-là, depuis qu'il est là. Donc ça va être un match très compliqué, ça va être un match âpre, ça va être un match où les joueurs de Marcelino vont rien laisser aux Marseillais. Mais de l'autre côté aussi, tu as une équipe de Marseille qui est revancharde, comme Aminarit il le disait. On a entendu les déclarations de notre ancien coach, donc on est revanchard. Mais ça va être un match compliqué, sachant d'autant plus que la presse espagnole joue depuis ce matin à dire que les joueurs de Villarreal auraient attrapé une épidémie dans le club. Donc j'ai l'impression qu'on est même rentré dans des trucs de fausses rumeurs un peu à gauche à droite pour déstabiliser.
Tu penses que c'est une fausse rumeur?
Moi je pense qu'on essaye de déstabiliser un camp.
Ce sont des joueurs qui n'ont pas joué dernièrement lors du 5-1.
Oui, mais ça les joueurs qui ont été cités. Gagner,
oui, oui, mais ça a été avec leur équipe plus ou moins remplaçant, mais du moins.
Ouais, moi je pense que les titulaires ils seront très très en forme jeudi et qu'il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas de coulant ce jeudi et ça va très bien se passer contre l'Olympique de Marseille. Si coulant doit y avoir, c'est que les joueurs de l'OM l'auront provoqué aux joueurs de Villarreal. Mais en dehors de ça, je pense qu'ils seront, ils seront là, il n'y aura pas de fièvre, il n'y aura rien du tout. Donc en tout cas, ça va être un match intéressant. Ce sera le pas plus intéressant à mon avis que Cédric Doumbé face à Baki qui sera aussi ce jeudi-là, mais ce sera quand même un match aussi intéressant à suivre.
Baki, on a une pensée aussi pour nos boxeurs professionnels de MMA ou de boxe anglaise, avec Bakary Samaké notamment. On va pas rentrer dans, voilà, on reste vraiment à la surface, mais on peut enchaîner en tout cas avec Marseille. Franchement, là on a pu voir Marseille qui déroule et je pense que là vraiment c'est le premier gros défi face à Villarreal et face à son ancien coach qui est très revanchard. Alfred, qu'est-ce que t'en penses?
De façon honnête, le sous-marin il a pas coulé, donc quelque part moi je dis bien qu'il faut, Marseille m'a fait faire un peu de progrès. C'est vrai que l'entraîneur Gasset est arrivé, mais bon, ça reste Villarreal. Villarreal est un club habitué des grandes compétitions. Donc on attend de voir. Pour moi, je reste un peu réservé parce que Marseille peut décevoir. Marseille, face à des petits clubs, ma foi, ne fait pas preuve de grands clubs en France. Aujourd'hui, c'est vrai que ses performances sont un peu à saluer pour l'instant. Non, mais pour moi, le sous-marin reste quand même un peu supérieur à Marseille. Donc pour moi, ça ne devrait pas être facile pour Marseille.
Merci Alfred. On rappelle notamment que Marseille est invaincu cette saison à domicile. Stéphane, toi, dis-nous comment vois-tu le déroulé de ce match-là entre le Villarreal et l'Olympique de Marseille?
Moi personnellement, je vois quand même largement, peut-être pas largement, mais en tout cas, je vois Marseille sans trop de difficultés parce que ce qui se passe effectivement vis-à-vis de l'entraîneur, vis-à-vis des supporters et tout, parce que c'est plus ça les supporters, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés à gonfler les joueurs contre l'entraîneur. Et comme on sait que les Marseillais, il leur manquait beaucoup de motivation, peut-être d'envie, de
un
mental
peu de câlin.
Et tout, je pense que s'il y a un match où ils vont l'avoir encore plus que les autres, c'est celui-là, quoi. Donc je pense que en tout cas, pour le match aller, je pense que ça va bien se passer. Maintenant, effectivement, c'est du foot, on a tout peut arriver dans un match de foot, mais normalement, bon, faut pas non plus Villarreal supérieur à Marseille. Je pense qu'il faut quand même le dire un peu vite, quoi, parce que si le même Marseille n'allait pas très bien, va quand même même mieux, même si contre des équipes mal classées, a quand même mis des choses, montré des choses plus intéressantes. Maintenant, effectivement, c'est que il va falloir faire. Il y a certains joueurs de l'OM qui vont devoir quand même monter un peu leur niveau de jeu qui n'est pas pour moi un niveau de l'OM en tout cas ou de football européen. Donc c'est vrai que ces gens-là ils vont devoir monter leur niveau de jeu, mais moi je pense quand même que ça va quand même passer parce que je pense que Villarreal n'est pas une équipe très forte et puis surtout que il va y avoir de la motivation, donc je pense que ça va faire, en tout cas pour ces joueurs-là, hein, comme
oui oui Stéphane, il ne faut pas oublier que je pense qu'il y aura de la motivation des deux côtés. Et est-ce que tu as pu voir Villarreal ces derniers temps, même si cette saison en Liga, Villarreal, c'est un peu plus dur que les autres années. Mais franchement, Villarreal, ça reste quand même une très belle équipe et très dangereuse. Et moi, je pense aussi notamment que Villarreal, en tout cas, si en termes de pourcentage, je pense que ça serait du 55-45 pour Villarreal. Et franchement, en vue de ce que j'ai vu du côté de Villarreal, si ce n'est plus.
Ah non, moi je ne les ai pas vus beaucoup jouer, j'ai dû voir un match.
C'est peut-être pour ça.
C'était il y a quelques temps, je ne les ai pas vus jouer beaucoup plus. Maintenant, je regarde quand même quelque part leur classement. Bon, ils sont à 5 points du premier relégable. Je ne sais pas, ils sont combien? Ils sont 12e ou 13e, je crois, ou 11e peut-être en Liga. Je connais le coach Marcelino maintenant, par contre, je le connais mieux depuis qu'il a fait quelques matchs. À Marseille.
Et depuis qu'il est arrivé notamment à Villarreal, il enchaîne les bonnes performances. Hein.
Oui, bien sûr, oui. Ils étaient quasiment relégables, je crois, quand on est arrivé. Effectivement, ils en ont à penser que du bien. Non, je pense que à Marseille, remis un peu le Marseille d'il y a 3 semaines, je ne sais pas, parce que là, je parle surtout mentalement. Hein. Je pense que Gattuso les a complètement mis à l'envers mentalement, avec une pression, se sont eu une pression incroyable, lui aussi, même nous-mêmes, parce qu'on pense tous que Gattuso, on pense aux joueurs, donc on pense que c'est un grand entraîneur et tout, donc il y a une pression incroyable qui a été mise, et ils jouaient n'importe comment, et maintenant, ça va beaucoup mieux, donc je pense que posé, plus calme, plus tranquille, Marseille au-dessus, maintenant, comme je le disais, hein. Ça dépend pour moi. Je vais citer Gigot, par exemple, qui pour moi est pas un joueur du top 10 en Ligue 1, quoi. Donc, par exemple, un joueur comme ça, ben, t'es pas à l'abri qu'il te fasse un rouge, un crochet, un machin. Donc, ça peut être très, très, très intéressant. On ne sait pas ce qui peut se passer. Le gardien n'est pas non plus au top. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais normalement, la qualification, je ne dis pas, elle agit peut-être du 50-50, mais en tout cas pour le premier match au Vélodrome jeudi, je pense que l'OM est largement favori.
Merci Stéphane pour ces petites analyses. Avec nous Philippe qui vient de nous rejoindre. Comment ça va Philippe?
Ça va. Super. On a fait le service après le temps.
Du coup Philippe, on va te lancer tout de suite. Oui. Hein, tu peux nous dire qu'est-ce que toi t'en penses de Marseille et Villarreal, la double confrontation qui aura lieu très bientôt?
On était un petit peu pessimiste il y a 3 semaines quand on parlait de Gasset. On disait oh, il a 70 ans, c'est peut-être pas le bon choix. Puis on s'aperçoit que finalement pour l'instant ça va plutôt bien. Hein. Donc effectivement on va voir si devant Villarreal ça se passe bien. Pour moi, c'est du 50-50. Hein. Villarreal-Marseille, c'est du 50-50. Donc, on verra pour ce match. Mais de toute façon, pour l'instant, les résultats sont là. Ça fait 3 matchs où ça va mieux. Donc, voilà. Tant mieux.
On espère pour eux, en tout cas, que
on espère. Puis peut-être, je crois qu'ils sont 7e, là. Donc, peut-être qu'ils vont pouvoir... Il faut espérer que Paris Saint-Germain ou Rennes gagnent la Coupe de France. Ils peuvent aller chercher un ticket européen. Hein.
Aussi, oui. c'est possible.
En tout cas, ça reste jouable.
Hein. Il reste encore une journée.
Après, bon, voilà. Faut pas non plus s'emballer. Il y a pas de voilà, mais il y a quand même un mieux, même au niveau de l'état d'esprit. C'est surtout ça qui est important.
Oui.
Voilà.
Merci Stéphane.
Pour l'instant, ça va bien. Oui.
Cheikh Kenza, toi, tu peux nous dire qu'est-ce que tu en penses assez rapidement sur Villarreal, Marseille, la prochaine échéance qui arrive?
Oui, je pense que Gasset, vraiment, ça sera le match de la confirmation, de montrer vraiment les belles choses qu'ils ont mis en place, de continuer sur cette lancée. Mais je crois que Marseille, ils ont les moyens vraiment de battre cette équipe de Villarreal. Donc, je pense que si Gasset, vraiment, avec le même système de jeu, le 3-5-2, et aussi la confiance, je crois que oui, on aura un match beaucoup équilibré. On verra vraiment des acteurs prendre du plaisir, jouer au football. Comme Abou l'a dit tout à l'heure, les joueurs vraiment de Marseille qui sont un peu revanchards et tout ça. Donc, je pense qu'on aura une belle équipe et Gasset, il est lancé. Là, les joueurs sont en confiance. Donc, c'est plus la même équipe, c'est plus le même Marseille qu'on avait en début de saison. Là, c'est un autre visage qu'on est en train de voir. Ce match-là, pour moi, ça serait une confirmation de montrer vraiment que oui, que là, Marseille se réveille enfin et pourquoi pas faire une bonne saison en Europa League.
Merci, Cheikh Kenza. On va enchaîner, notamment, merci Stéphane, hein, t'as fait un peu une petite transition hein, oui. Avec, en espérant que Rennes ou le Paris Saint-Germain gagnent la Coupe de France. Il y a Cacré aussi qui ambitionne avec l'Olympique Lyonnais de gagner cette Coupe de France et qui pourrait sauver notamment leur saison
Lyon,
avec une
pareil.
Place en Europe. Lyon qui l'a visé, et je le disais même il y a à peu près 2-3 semaines, qu'attention parce que Lyon peut viser la Coupe d'Europe à travers... cette Coupe de France. Toi, qui vois-tu en favori dans cette Coupe de France?
Je pense que Lyon va battre Valenciennes. Après, bon, voilà. Après, attention à Rennes. Hein. Attention à Rennes. Hein. C'est une équipe de Coupe de France. Et puis, si Rennes joue le PSG en demi-finale, bon, Paris vont vouloir jouer la Coupe de France à fond. Mais Rennes a souvent posé des petits problèmes à Paris en Coupe de France. On se rappelle de
la finale.
Ouais, de la finale. Donc, ouais. Avec attention, un PSG-Rennes, si, je pense que ça sera PSG quand même qui battra Nice. Je pense que PSG-Rennes, ce sera une belle demi-finale et c'est pas joué d'avance. Hein. Attention quand même, méfiance.
Merci Stéphane. Ouais. Et est-ce que tu peux. Enfin, Stéphane, pardon, merci Philippe. C'est pas grave, c'est la même Stéphane, boutique. Quoi, et je, en fait, ouais,
j'ai la même boutique.
Stéphane, du coup, toi, oui. Dis-nous, qu'est-ce que t'en penses avec.
J'en pense déjà, c'est un petit mot particulièrement pour Abou, ça peut être pour tout le monde, mais pour Abou, c'est que. Abou, est-ce que tu penses que Lyon va battre facilement Valenciennes et aller en finale de la Coupe de France? Une petite blague, parce que je sais que Abou, tu apprécies en tout cas un peu l'Olympique de Marseille. Et moi, je dis que c'est pas fait que Lyon batte Valenciennes, hein, pour aller en finale de la Coupe de France. Hein. Pas fait du tout. Donc, ça sera pas la première. Tout le monde s'attend à une finale PSG-Lyon, par exemple. Ça se trouve, ça va être Nice-Valenciennes. Hein. Donc, c'est pas évident. Maintenant, ils veulent gagner, ils veulent tout gagner, Cacré. Il va falloir peut-être quand même qu'ils montent un peu le niveau de leur jeu. C'est passé bien contre des équipes. Et ils sont tombés un peu sur un os hier, avec surtout tactiquement. Je pense une équipe qui les a beaucoup bougés tactiquement. Et ils n'ont pas vraiment trouvé de solution, les Lyonnais, hier soir. Donc, il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire gaffe qu'ils ne se soient pas vus un peu trop beaux en gagnant leur match, en disant que... En pensant déjà, bon, j'exclus bien sûr Pierre Sage de ça, parce que ça n'a jamais été son discours, mais on se voyait déjà peut-être en course pour la Coupe d'Europe, gagner la Coupe de France, le premier Cacré, le premier et peut-être le, entre guillemets, alors qu'il a été extraordinaire jusque-là, les derniers matchs, qui est passé complètement à travers du match hier contre Lens. Donc,
oui, attention. Après Stéphane, on a pu voir aussi une équipe de Lyon sans le général Lacazette et on a pu voir un field goal de 2,34 du coup et moi j'ai pu regarder le match avec des occasions énormément ratées parce que je pense que s'ils marquent ces buts là ça change complètement le match hein, et moi je pense que c'est vraiment le fait qu'ils n'ont pas réussi à trouver les chemins du filet mais se faire bouger. Je ne les ai pas vus, en tout cas, je ne les ai pas vus se faire dominer de la tête aux pieds où ils étaient impuissants. Ils ont eu des occasions, ça a été partagé. Et franchement, on peut pas, c'est pas à cause d'un revers à domicile contre Lens, quand même, qu'on rappelle qu'il était dauphin l'année dernière, qu'on peut remettre en doute la bonne mentalité des Lyonnais et leur performance dernièrement. On pense notamment qu'ils ont battu Nice à domicile, qu'ils ont battu Lille à domicile, qu'ils ont battu Marseille aussi, Montpellier et Metz, même si c'est un peu en dessous. On pense quand même qu'ils ont enchaîné dernièrement des très belles prestations et je pense pas qu'on peut remettre en doute cela juste à cause d'une petite un petit revers.
Ce que je dis juste c'est que je parle pas forcément effectivement ils ont eu des buts qui étaient quasiment tout à fait ouverts, beaucoup en transition hein, sur des contre-attaques rapides, du jeu très rapide vers l'avant. Je suis tout à fait d'accord mais disons quand ils sont tombés sur une équipe qui tactiquement a été très solide et a su faire aussi ce qu'il y avait effectivement pendant je ne sais plus les minutes des buts mais pendant la première demi-heure le match était très très pauvre quoi. C'était un combat tactique entre les deux équipes quoi. Donc quand ils sont tombés contre quelqu'un de très solide et mis en place tactiquement, alors est-ce que Valenciennes est capable de faire ça? Je pense qu'ils sont archi favoris, il y a d'accord hein.
Oui, mais je pense qu'on est on est d'accord sur ce point là.
Un peu des fois, moi aussi, je pense que aujourd'hui, si j'avais un pari à faire, je parierais sur une finale Paris Saint-Germain-Lyon. Mais je vois pas, en tout cas, à l'état actuel des choses, je vois pas comme Lyon aujourd'hui exister par exemple face à une équipe comme le Paris Saint-Germain.
Merci Stéphane. Et du coup, Abou, toi, tu penses que Lyon peuvent aller au bout de cette échéance ou pour toi, c'est trop compliqué la Coupe de France?
Non, il leur reste deux matchs à gagner. Donc, à partir du moment où il te reste deux matchs à gagner, tout est possible dans cette compétition-là. Après, Lyon, ils vont jouer contre une équipe de Valenciennes qui est dernier de son championnat avec 8 points de retard sur l'avant-dernier. Donc, une équipe qui est sûre qu'elle fera rien en championnat. Donc, il leur reste un peu plus que la Coupe de France pour un peu sauver, entre guillemets, leur saison, même si je vois pas comment tu peux aller jouer l'Europe en étant
C'est ce qui est un peu fou, hein, c'est ce qui fait la folie de la ouais. Coupe de France
en national, ouais. Mais c'est ce qui reste au Valenciennois et c'est pas joué, c'est pas fait. Il suffit juste que tu tiennes tête à l'équipe lyonnaise pendant 90 minutes et après au tir au but tu remportes ce match. Donc je suis un peu d'accord avec Stéphane, Lyon part largement favori, mais c'est pas fait complètement. Et moi je pense que le vainqueur de cette Coupe de France, même si Lyon passe, ce sera Rennes, parce que la dernière fois que Rennes a gagné la Coupe de France, c'est Julien Stéphan qui reprend l'équipe en cours de saison, et cette année c'est encore une fois Julien Stéphan qui reprend l'équipe en cours de saison. Et moi je le vois bien refaire l'exploit et regagner cette Coupe de France avec Rennes. Après il ira à Strasbourg et après il se fera virer de Strasbourg. Après Rennes le reprendra dans 4 ans
ainsi de suite, c'est ça. Merci à vous, on voit en tout cas où est-ce que tu as envie d'en venir. Alfred, toi, dis-nous tout, qu'est-ce que tu penses de cette Coupe de France et qui est ton favori maintenant pour cette Coupe?
Après, bon, je rejoins légèrement à bout parce qu'un match de championnat n'a rien à voir avec un match de Coupe. Donc pour moi, tout est ouvert. Valenciennes, c'est vrai qu'elle n'a pas un bon parcours au niveau de son championnat. Après, Lyon, ça reste un grand club en France. Donc aujourd'hui, je pense que Lyon va jouer son va-tout pour pouvoir se qualifier. Rennes est une équipe qui gagne parfois dans les coupes. Donc je pense que ce qu'a dit Abou, ça peut arriver une finale Lyon-Rennes. Si ça peut sauver, ma foi, Lyon, parce que je dis une chose, quand on regarde la hiérarchie du football, un championnat de France, une compétition européenne sans Lyon, ça ne fait pas rentrer l'argent dans le club. Donc quelque part, ce serait une perte. Donc je pense que les dieux devaient être pour Lyon. Si Lyon peut aller jusqu'à soulever ce trophée-là, ce serait bien. Pour moi, je pense qu'il faut quand même... Lyon revient petit à petit, donc je pense qu'elle doit se battre jusqu'au bout pour pouvoir gagner ce trophée.
Merci Alfred. Cheikh Kenza, dis-nous rapidement pour clôturer ce sujet.
Lyon face à Lyon, vraiment pour remporter la Coupe de France, c'est ça la question.
Oui, c'est ça. Qui est ton favori pour la Coupe de France et Kakré, lui, qui ambitionne de gagner la Coupe de France et qui le dit haut et fort?
Mais pour la Coupe de France, le favori habituel, on connaît tous, c'est le PSG. Là, moi, je mettrais le PSG, même si vraiment on n'a pas un grand PSG, mais je sais que le PSG a les moyens de gagner cette Coupe. Après, Kakré, mais il se doit de dire ce qu'il veut parce qu'il est les footballeurs lyonnais, il se doit aussi de croire aussi en son club. Et tout ça, et comme Abou aussi l'avait dit, bon, moi je vais en favori le PSG et Rennes, parce que moi je ne crois pas que Lyon a les moyens, même si vraiment ils arrivent à battre Valenciennes, mais en finale vraiment ça sera un gros morceau, et surtout que Lyon cette saison, ils ont eu pas mal de soucis avec les gros morceaux, ils ont perdu tous les matchs face aux grands, donc hormis quelques matchs, donc je ne le vois pas vraiment remporter cette Coupe de France. Moi je parie pour le PSG.
Merci, Cheikh Kenza. On va enchaîner avec le PSG, notamment en Ligue des Champions. Hein, on n'a pas parlé face à la Real Sociedad. On pense que... on ne sait pas si tout est joué. Il y a eu 2-0 match aller. Mais attention, parce qu'on a pu voir le PSG qui sont habitués des remontadas. Et là, qui vont jouer en Espagne face à la Real Sociedad. Même si c'est une Real Sociedad qui est dans le dur, on doit quand même faire très attention à cette équipe-là. Stéphane, tu peux nous dire ce que tu en penses?
Et que cette prudence qui fait rire Philippe, en tout cas.
Non, mais ce qu'on se comprend, je ne vois pas plus qu'avant le match aller. Hein. C'est-à-dire que c'est la même chose que ce qu'on n'arrête pas de se dire... Elle a dit depuis deux jours, c'est-à-dire que c'est dans le football, tout est possible. Hein, donc, tout est possible. Et peut-être qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est encore un peu plus tout est possible que ailleurs. Ça fait un peu penser, ce match me fait un petit peu penser au match retour de Paris Saint-Germain, Manchester United, je ne sais plus quelle année, 2019, je crois.
Oui, 2019. Oui, 2019.
Ouais. Avec Tourelle, où effectivement. Je vois par hasard, ça arrivera jamais de toute façon avec un entraîneur comme Tuchel. Et puis ils étaient diminués, c'était que des jeunes et tout. Puis bon, il y a eu un concours de circonstances incroyable. Donc dans le foot, tout est possible. Maintenant, c'est vrai qu'après, il faut aussi être rationnel. Si on est rationnel, moi, je vois même pas le Paris Saint-Germain perdre. Et même, je vois le Paris Saint-Germain gagner là-bas, quoi. Donc, normalement, ils sont archi favoris. Il n'y a pas grand-chose à dire de ça. Maintenant, tout peut arriver. Un carton rouge, un pénalty dans la première demi-heure.
Ça peut.
Et voilà.
Ça peut aller vite. Merci Stéphane. Philippe, tu peux nous dire, toi, tu riais déjà.
Il y a tellement de mauvaises désaventures pour le Paris Saint-Germain, mais enfin là, je pense cette fois-ci que ça va le faire. Puis je pense que cette fois-ci, Mbappé ne va pas sortir. Hein. Donc, il va être sur le terrain.
Luis Enrique a rigolé, a dit oui, je vais traiter Mbappé comme les dernières fois.
Oui, mais bon, ça serait quand même un suicide de le sortir sur un match de Coupe d'Europe.
Moi, je pense qu'il va pas jouer.
Ah ouais, ah bon.
Moi, je pense qu'il débutera sur le banc.
Ah bon?
Je suis persuadé.
Ah bah là c'est là.
Ah, c'est une grosse info là, vous ouais, nous sortez en direct au direct voilà. Au bout du non, foot sur mon Paris FM. Ça sera voilà. Une exclue, hein, les compos je avant l'heure.
Que, ouais. Même s'il y a eu tellement de désillusions dans le passé pour le PSG, y compris ce fameux match contre Manchester United, hein, où effectivement face à l'équipe qui était une équipe bis, on a gagné Paris avait gagné 2-0 à Manchester. Tout le monde pensait que c'était joué, sauf du gagner 3-1 au Parc. Je pense que bon, cette fois-ci, ça devrait le faire. Je ne pense pas quand même qu'il y aura une mauvaise déconvenue. Bon, bah, et puis, s'il y a mauvaise déconvenue, bah, je ferai vaut mieux inculpe pas la semaine prochaine.
Merci, Philippe. Cheikh Kenza, toi, tu peux nous dire qu'est-ce que tu en penses là, de ce PSG-Real Sociedad, un match aller qui s'est soldé par un 2-0 au Parc des Princes et là, qui va jouer du côté des Basques. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais moi, vraiment, je vois cette équipe du PSG se qualifier. Je vois le PSG vraiment se qualifier. Mais je ne vois pas le PSG faire un grand match. Parce que oui, même si à l'aller, tout était là, mais l'esprit d'équipe n'y est pas avec le souci concernant Mbappé. J'espère qu'ils vont vite régler ça pour remettre le pendule à l'heure pour essayer d'aller chercher cette victoire qui serait très bon pour les supporters parisiens déjà. Mais je vois le PSG se qualifier parce que là... La Real Sociedad n'a rien démontré. Voilà, c'est pas une grande équipe en tant que telle qui pourrait, même si un PSG moyen, qui pourrait vraiment les empêcher d'obtenir les objectifs.
Merci.
Je pense que le plus dur, ça serait vraiment encore pour le PSG. Ça va, on va devoir prier, voilà, croiser, pour voir quelle équipe sur laquelle le PSG va tomber. Sinon, là, en 8e, je crois que le PSG a les moyens de se qualifier. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a un sérieux problème. Il va falloir se poser des questions.
Merci, Cheikh Kenza. Alfred, toi,
à titre personnel, il faut dissocier les choses. Lorsqu'on s'engage en compétition européenne, on va pour gagner quelque chose, on va pour faire un bon parcours. Qu'il parte ou qu'il ne parte pas, il doit partir. Maintenant, si on investit dans un club et qu'on mène une politique pour perdre soi-même, quelque part, on ne respecte pas les gens. Donc, le président, l'entraîneur, le footballeur, on va pour se qualifier. Donc, ces problèmes par-ci, par-là, je ne pense pas qu'ils doivent avoir lieu, sinon ça ne sert à rien qu'on soit en compétition. Je pense qu'aujourd'hui, Paris va pour gagner. Qu'il le mette sur le banc de chou, ce n'est pas un coup confirmé. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui est là, qui est dans un club. Donc pour moi, ces pensées-là, si le président lui-même du club, qui est au-dessus de tout ça, ne réagit pas dans l'intérêt du club, moi je ne vois pas pourquoi le footballeur il est là. Donc déjà, qu'il y ait des comportements, là, on va pour jouer une qualification. Donc pour moi, je pense qu'on doit faire profil bas, être unis et la gagner. Pour moi, je pense que Paris devrait la gagner.
Oui, mais...
Voilà, les différents internes, ça ne sert à rien.
Même les années où ils se sont fait éliminer, ils voulaient la gagner. C'est ça le problème.
Voilà,
c'est ça le problème. C'est ils partent toujours pour gagner. Après,
voilà. Mais c'est vrai que là, il n'y avait pas ce gros problème.
Oui,
voilà.
Oui,
on n'avait
oui,
pas
oui,
ce gros ça. Problème de mais mettre bon, ses joueurs majeurs remplaçants.
Peut-être que le vestiaire, il est content que Mbappé joue pas.
Je ne pense pas. Honnêtement, je pense qu'ils veulent profiter encore de lui.
Il y a des joueurs qui peuvent être... Voilà, mais je ne pense pas quand même. Je ne pense pas quand même, parce que là, ça serait grave. Alors.
On a été débarrassé de ces jaloux de
ouais,
Lionel
ouais.
Messi
ouais,
et compagnie.
À ce qu'a dit, je crois que c'est à vous, d'après toujours d'après mes informations, dans la conversation entre Enrique et Kylian Mbappé, Enrique aurait clairement expliqué à Kylian Mbappé, entre autres, qu'il était effectivement, au niveau de l'effectif, redevenu un joueur... tout à fait plus malléable en tout cas, et qu'il allait le faire beaucoup plus tourner, mais que bien sûr qu'il comptait sur lui pour les gros matchs et les gros rendez-vous. Donc c'est vrai que, à moins que ça soit mon info soit fausse, hein, mais en tout cas, ça serait quand même très très étonnant qu'il joue pas le match demain.
Bon, en tout cas, pour nous...
S'il le fait tourner sur un PSG Le Havre, c'est pas grave, surtout que Paris a 9 points
d'avance.
Maintenant, s'il le fait tourner sur une Coupe d'Europe, c'est suicidaire, quoi. 30 buts, toutes compétitions confondues, c'est suicidaire, quoi.
Oui. Bon, on va passer un petit mot rapide sur Lille, hein. On va pas prendre tous les avis. Hein. Lille qui vont jouer contre Sturm Graz. Voilà, le match se joue en premier lieu chez eux. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, Philippe?
Bah, Lille, ils peuvent jouer de bonnes surprises pour le foot français, hein, quand on sait que ces dernières années, c'est la Ligue Europa Conférence où les clubs ont pu le briller. Hein, Marseille en demi-finale il y a 2 ans, Nice qui avait été en quart l'année dernière. Donc Lille, ils ont un petit coup à jouer peut-être dans cette compétition. Hein, je pense que ça devrait le faire devant Sturm Graz. Et après, bah, tout est possible.
Attention à ces équipes piégeuses quand même, surtout là-bas. Ça peut être difficile.
Après, c'est des questions de miracle, c'est des questions d'envie, arriver à...
Il y a aussi ça.
C'est ça. Oui. C'est ça.
Et Abou, toi, quelques petits mots rapides sur ça. Tu penses quoi? Tu penses qui part favori? Bon, on pense que Lille part favori, mais quelles sont tes impressions, toi, sur ce match? Tu penses que Lille arriveront à se qualifier assez facilement?
Moi, je leur souhaite. Après, le problème des clubs français, c'est que souvent, ils nous rendent bêtes. Après, à la fin, on est là, on a mis beaucoup d'espoir. Mais là, pour le match à l'extérieur, je crois qu'il commence à l'extérieur, Lille. Je vois petit match nul, tranquillement, un partout. On commence à la Lilloise française, tranquille, et ils gagneront au match retour. Pour jeudi, je vois un match nul et une victoire au match retour à la maison.
On espère, en tout cas, pour nos clubs français. Merci, Abou. On va enchaîner avec la question sur... sur Franck Haise. Hein. Franck Haise, on l'a vu, qui a été annoncé sur la shortlist des Reds pour remplacer Jürgen Klopp à l'issue de la saison. Est-ce que c'est une utopie ou plutôt est-ce qu'on peut imaginer Franck Haise dans un tel club et entraîner Liverpool? On va faire ça avec un petit 30 secondes chrono, s'il te plaît, Jay. Et ça va être parti pour Stéphane. C'est parti.
Enfin, pour moi, c'est une vaste blague. Alors, c'est vraiment une énorme blague. Parce que j'ai regardé Franck Haise, c'est 80 matchs de haut niveau, hein, de Ligue 1. Il doit avoir 7 ou 8 matchs de Coupe d'Europe. Alors, Liverpool qui prendra un entraîneur comme ça, mais alors, je ne veux pas y croire une seconde. D'un autre côté, je ne croyais pas que le PSG pouvait prendre un entraîneur comme Galtier, et ils l'ont pris. Donc, tout peut arriver. Non, mais pour moi, c'est une énorme blague. Voilà.
Ça a le mérite d'être clair, hein, voilà, t'as tiré un peu dans tous les sens, en tout cas, on a pu voir pas mal de balles perdues, ok, on va enchaîner, Stéphane.
Il aime bien Franck Haise, hein. C'est un très bon entraîneur. Hein.
Oui, c'est un très bon entraîneur, mais de Ligue 1, quoi, c'est ça que tu voulais dire.
Ouais, exactement, comme Galtier. Ouais.
Merci. Philippe qui n'est pas très d'accord, Philippe et son 30 secondes.
Peut-être avoir une bonne surprise. En plus, il faut savoir que Haise, c'est l'entraîneur d'une équipe comme Lens. On sait qu'il y a un certain état d'esprit Lens. Et Liverpool, c'est un petit peu pareil, quoi. Voilà, nous ne marcherons jamais seuls. C'est un petit peu comme Lens qui va chanter les corons. Donc, c'est des équipes de cœur, c'est des équipes qui ont un certain état d'esprit.
Ah, il saura chanter alors.
Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, Ronaldo Nuix, il avait bien réussi en Espagne, pourquoi pas, on pourrait avoir une bonne surprise, pourquoi pas.
Merci Philippe.
On va pas faire poule, faire ça, ça me paraît impossible.
Oui, merci Philippe en tout cas. Cheikh Kenza, tu peux nous dire toi, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense que Franck Haise, il peut le faire parce que même par le passé, on a eu ça, pourquoi pas, ça serait le deuxième Gérard Houillet, parce que Gérard Houillet, avant de prendre Liverpool, il n'avait pas entraîné des équipes majeures et tout ça. Il n'avait pas été celui qu'on croit. Mais à Liverpool, quand même, les stats prouvent que vraiment, voilà, qu'il a été l'homme de la situation pendant pas mal de temps. Parce qu'il a lancé des jeunes du club comme Steven Gerrard et tout ça. Et il a construit un collectif plus tard qui a permis à Benitez de gagner. Donc je pense que Franck Haise, il peut le faire. Oui, c'est possible. Il ne faudrait pas qu'on néglige ce qu'on a sous la main. Mais c'est les moyens qui manquent.
Donc,
je pense
merci, que Franck Haise, Kenza. Alfred.
Non, je pense que c'est un fake news. Je ne pense pas que Liverpool ira le chercher. Après, je pense que Xavi Alonso peut-être a su la liste. Mais bon, c'est un entraîneur qui a fait un bon parcours à Lens. Lens est une ville sportive qui a de bons supporters. Il est très bien apprécié là-bas. Il faut faire avec. Mais pour l'instant, je ne crois pas que il ira à Liverpool. Il faut le respecter là où il est.
Merci, Alfred. Qui a terminé plutôt que ces 30 secondes. Hein, je pense que ça a le mérite d'être clair. Alfred, tu rigoles beaucoup. Hein, ça te fait rire, cette question, j'ai l'impression, te fait rire.
Non, mais sois honnête avec moi. Je ne veux pas apporter trop de déclarations négatives au sujet de l'entraîneur. Mais tu sais, c'est Liverpool quand même. Il y a les abonnés, il y a le club, il y a l'enjeu.
C'est vrai ce qu'il avait dit. Oui, mais c'est les mêmes
états d'esprit. Gérard Houillet, désolé de t'interrompre, mais Gérard Houillet, avant de prendre Liverpool, Gérard Houillet, c'était pas un grand entraîneur en tant que tel. Liverpool, ils vont le chercher. Et c'est Gérard Houillet qui lance vraiment des jeunes comme Steven Gerrard qui construit.
À ce que je sache, Liverpool n'est pas en construction.
Mais là, ça serait une bonne phase de transition parce que le problème qu'on a souvent, tu imagines qu'un Gérard Houillet, est-ce que vraiment à l'époque, le PSG aurait misé sur lui? Non. Par le passé, le PSG n'aurait jamais misé sur Gérard Houillet.
Il y a une chose que tu dois retenir, c'est qu'il y a l'autorité. Et Gérard Houillet, c'est quelqu'un qui a une autorité. Il y a, qui a, je ne sais pas, une carrue. D'accord. Haise, il est encore jeune. Donc déjà,
mais je pense que Franck S peut le faire. Franck S peut le faire. Je pense qu'il peut le faire parce qu'il a les moyens et tout ça.
Qu'est-ce que tu as démontré quand même?
Il a démontré avec Lens. Il a démontré avec Lens. Mais là, ça serait un.
Gérard Houillet a réussi à dire à Carou, tu t'es pas content, dégage. Il lui a dit à Lyon.
Mais Franck S, il peut le faire. Franck S, il peut le faire parce que là, on a vu quand il a pris l'équipe de Lens, il n'y avait pas ce collectif. Il a construit des choses. Même si à un moment donné, il y a des joueurs majeurs qui partent et tout ça. Son capitaine, Seko Fofana, on a vu que Franck S, il a des qualités. Et ça serait vraiment un bon profil. Je pense que s'il y a les moyens qui sont mis vraiment à sa disposition, il pourrait développer des belles choses. Parce qu'on a vu à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on doute aussi de ce qu'on a sous la main, parce qu'on a vu des entraîneurs français qui peuvent être des grands entraîneurs. Et Franck S, il a prouvé le minimum. Déjà, avec un club comme Lens qui n'a pas un énorme budget et tout ça, qui nous sort de ces deux très belles saisons, donc ça montre que oui, il y a du positif. Il n'y a pas que du négatif. Mais à un moment donné, son club ne pouvait pas se permettre financièrement de garder certains joueurs cadres qui lui auraient permis de récidiviser encore une fois cette saison.
Merci, Cheikh Enza. Abou, on va enchaîner avec ton 30 secondes chrono. Tu vas nous dire, toi, ce que tu en penses de Franck Hez chez les Reds. Hein, pourquoi pas, en tout cas, c'est ce qu'on a pu voir et c'est ce qu'on a pu lire dernièrement. C'est parti, Abou.
Rouler en Clio 5 sur l'autoroute à 130 km/h en maîtrisant parfaitement l'autoroute, c'est bien, mais c'est pas la même chose que rouler une F1. Donc moi, j'aime beaucoup Franck Hez, beaucoup de respect pour le travail de Franck Hez. Voilà, c'est un formidable coach en Ligue 1, mais envoyer Franck Hez à Liverpool, les gars, peut-être c'est pour être intendant, coach adjoint, ils ont mal compris le truc, les gens qui ont rapporté la rumeur. C'est un gars qui parlait pas trop bien anglais, mais qui fait du très bon travail en France, et moi j'espère qu'il aura un club plus huppé en France, genre Lyon ou Marseille, mais aller jusqu'à Liverpool, on va se calmer quand même. On est chauvin, mais pas jusque là.
On sent Philippe qui a encore beaucoup de choses à dire, hein. Philippe, ouais, qui n'est pas très d'accord, on le voit tirer un peu la tête.
C'est même état d'esprit, hein. C'est deux clubs à philosophie ouvrière, ça faut pas oublier. Donc déjà, pour l'acclimatation, ça peut jouer. Et puis après tout, pourquoi pas, effectivement, Houillet avait bien, il avait entraîné Lens, il a fait des résultats à Liverpool, pourquoi pas. Et puis on ne connaît pas M. S, peut-être que c'est un homme d'autorité. Hein,
on ne le connaît pas particulièrement.
Je pense qu'on le connaît encore un peu un minimum. Hein. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est un très bon coach qu'on a ici en France. Moi, j'aimerais bien le garder en France et le voir notamment, comme Aboul l'a si bien dit, avec une équipe comme Lyon, comme Marseille, ou pourquoi pas comme le PSG, puisque Galtier a été au PSG, pourquoi pas Franck Hez.
PSG, c'est pas très ouvrier.
Voilà, mais Non, mais c'est les mêmes philosophies. Ah,
c'est ça.
Moi, je le vois vraiment à Liverpool.
Je le vois pas à Lyon. Non, franchement, je le vois pas. Moi, je le vois pas à Liverpool.
De façon honnête, il faut le laisser gravir les échelons.
Oui,
après Lens, il doit aller pour Monaco. Moi, je parle des grandes villes.
Oui, mais c'est peut-être pas le même état d'esprit.
Marseille. Oui, je partage ton avis, mais après...
Liverpool, c'est le même état d'esprit, c'est des villes ouvrières où c'est vraiment très important l'identité du maillot, comme j'ai dit, nous marcherons jamais seuls, c'est exactement les corons, quoi. Ça, c'est important.
Stéphane, je voulais t'entendre.
Stéphane, toi qui connais mieux le football, tu sais très bien que Gérard Houillet, avant de prendre Liverpool, il était avec les espoirs, il était avec les U20 de la France et tout ça. Et quand il arrive à Liverpool, ben déjà très peu de personnes croient en Gérard Houillet, mais c'est lui qui construit cette équipe. Parce que l'année ou pas, 2004, quand Gérard Houillet part, en 2005, quand Rafael Benitez arrive, c'est l'année où Liverpool va chercher. Donc je pense que la construction vraiment, le renouveau de Liverpool, vraiment, ça part de Gérard Houillet. Et pourquoi pas vraiment rentrer dans une nouvelle spirale avec ce Franck Hez vraiment qui pourra vraiment redonner encore un nouveau élan. Parce que hormis cette saison que Liverpool fait, on passe deux saisons au Liverpool, on n'a pas un grand Liverpool. On passe deux saisons où Liverpool est à la traîne en championnat. Donc je pense que oui, ils ont besoin, et s'ils ont étudié ce cas en interne, parce que Liverpool, c'est une ville qui respire le football, qui la vit, qui mange le football, une vie où on ne parle que de football. Là-bas, c'est une culture où ça se discute pas. Donc s'ils ont vraiment, ils ont vu que vraiment, ils ont étudié ça, ils se sont dit pourquoi pas ne pas répartir s'il y a un Gérard Houillet bis. Donc je pense que c'est une bonne, toi qui connais un peu le football, je pense que tu pourrais mieux nous éclairer là-dessus.
Ouais, sur le football, moi je connais pas forcément plus que vous, mais je dis juste que le Liverpool de 1998, quand Gérard Houillet arrive, et le Liverpool d'aujourd'hui, ces deux équipes qui n'ont strictement rien à voir. Liverpool aujourd'hui, c'est tu mets un, tu cherches un entraîneur, ça, ils ont beau chanter You Never Walk Alone, ça n'a strictement rien à voir avec les Lensois qui chantent les corons ou les qui font chuchoter à la fin d'un match. Ça n'a strictement rien à voir.
Non, c'est pour la philosophie du club dont je parlais. Oui, voilà. C'est des villes ouvrières, base ouvrière. Voilà.
Mais c'est un club qui est top 3 en quand il termine 5e comme la saison dernière. C'est un drame s'ils sont 5e. en première ligue, qui joue le titre pratiquement tout le temps. Donc l'année prochaine, il n'y a pas de raison que s'ils décident de vendre tous leurs joueurs, de tout changer leur politique et de repartir avec des jeunes du club, ils peuvent, pourquoi pas, prendre peut-être un Francaise. Moi, personnellement, j'ai été vacciné par Christophe Galtier, le meilleur coach de Ligue 1, le plus grand coach. Il va pouvoir et tout. J'ai jamais compris comment le Paris Saint-Germain pouvait prendre un entraîneur qui a joué coacher 7 matchs de Ligue des Champions.
C'est un autre débat, Stéphane.
Non, mais c'est simplement le même cas. Franck Hez, il a coaché 7 matchs, 6 matchs de Ligue des Champions, quoi, et 2 matchs de Ligue Europa qu'il n'a pas été foutu d'en gagner un, quoi. Je veux dire, donc, je ne vois pas un club.
T'es dur un peu avec notre Francaise quand même. Nous, on l'aime bien, notre Francaise. Mais on va lui laisser du temps, en tout cas, pour monter. Excuse-moi, Stéphane, de t'interrompre. On va laisser un peu plus de temps à Francaise et on espère, en tout cas, que demain, il pourra intégrer de gros effectifs.
Je pense pareil, hein, mais en tout cas, là, c'est beaucoup trop tôt pour aller à Liverpool. C'est beaucoup trop tôt.
Je pense aussi. Je pense aussi que c'est un peu trop tôt pour aller à Liverpool. Merci, en tout cas, pour ces petites précisions et merci pour ces analyses. On va remercier tous nos chroniqueurs aujourd'hui qui ont été autour de la table, hein, et Stéphane aussi. Merci beaucoup Stéphane pour cette analyse et on espère te revoir la semaine prochaine.
Les amis, ouais, normalement j'essaierai de venir. Je voulais venir ce soir, mais j'ai eu un empêchement.
Bah, surtout que ça, on va parler de l'élimination du PSG, donc j'espère
que ça sera la Ligue des Champions et la qualification du PSG. Non, tu pourras venir avec ton maillot, Stéphane. Ne t'en fais pas, tu pourras venir avec ton maillot. Personne ne gâchera notre plaisir.
On va offrir un petit Mbappé. On va offrir un petit Mbappé du PSG là.
C'est bien.
Voilà. Tu nous le ramèneras, on espère en tout cas. Merci Stéphane et merci à Philippe pour tes analyses. Merci Alfred avec ton rire toujours assez abordant. Merci.
Le Paris Saint-Germain va se qualifier.
On espère. Et merci Abou aussi pour.
Le Paris Saint-Germain sera éliminé.
Non, le Paris Saint-Germain va se qualifier, Stéphane, on y croit.
Merci Cheikh Kenza. Merci à tous nos chers téléspectateurs qui nous ont, enfin tous nos auditeurs et auditrices et qui nous ont écoutés et téléspectateurs aussi, parce que c'est filmé de temps en temps, c'est filmé et on repropose ces vidéos sur Instagram, Mon Paris FM. Allez suivre ce Instagram là ou même sur TikTok et on espère vous revoir la semaine prochaine, très prochainement. Merci bien et très bonne soirée à vous.